Vous êtes sur RTL.
Il est 6h59 minutes et vous retrouvez Yves Calvi. Bonjour Yves.
Merci beaucoup Julien. Couvrez-vous bien et à demain dès 4h30 avec toutes nos équipes des petits matins. Bonjour à tous. La météo de ce matin est d'abord l'actualité. Pardonnez-moi, de ce matin est d'abord météorologique. Vous l'avez entendu. Avec cette vigilance orange, neige et verglas, une alerte grand froid qui devrait toucher au minimum la Bretagne, la Normandie et l'Île-de-France. 28 départements concernés. Et nous suivrons la situation pendant toute la matinée avec l'aide de Louis Baudin que vous venez d'entendre avec Julien Cellier. À 7h40, l'invité d'RTL est aujourd'hui l'infectiologue Benjamin Rossi. Il répondra aux questions d'Alba Ventura, en particulier sur la circulation des variants en France et dans nos écoles. Et puis nous vous proposerons dès 7h15 un dossier passionnant et passionnel, celui de nos éoliennes. Reportage sur la montagne Sainte-Victoire et bilan énergétique avec notre brigade de l'actualité. Je vous donne un chiffre. Les éoliennes produisent actuellement 8% de notre électricité, mais jusqu'à 14% lorsque cela souffle. Nous sommes le mardi 9 février 2021. Très bonne journée à l'écoute d'RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Attirer les vacanciers en leur promettant le vaccin. Et si c'était ça le tourisme de demain?
Cuba, Dubaï, certaines agences de voyage n'hésitent plus à proposer des séjours all-inclusive, injections comprises. Attrape en région parisienne un prof de philo menacé pour avoir critiqué l'emprise des islamistes sur sa ville. Le maire de la commune estime qu'il en fait trop. Nous sommes allés voir sur place. Nous reviendrons sur la disparition cette nuit de Jean-Claude Carrière, le scénariste à succès, mort à 89 ans. Et puis le retour de la Coupe de France dans le contexte d'une vraie bouffée d'air pour la fédération.
La politique avec Olivier Boss.
Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle. C'est une idée qui circule.
Dès la fin du journal, on se retrouve.
RTL Matin.
Se dorer la pilule au soleil, cocktail à la main entre deux doses de vaccin. Qu'en dites-vous?
C'est pas
le
mal.
Concept semble en tout cas se répandre de plus en plus. On appelle ça le tourisme vaccinal. Et alors que l'Europe tremble à l'idée d'une pénurie, certains pays n'hésitent pas à proposer la piqûre sous les cocotiers. Bénédicte Tassard.
Caraïbes, mojito et vaccin. Ce spot est diffusé depuis Cuba à toute l'Amérique du Sud. Dès mars prochain, les touristes qui restent 3 semaines sur l'île auront bien droit au vaccin cubain, comme l'annonce entre deux photos de plage les autorités dans ce petit film publicitaire.
Les touristes ont l'option, s'ils le souhaitent, de se faire vacciner à Cuba.
Pas loin de là, en Floride, ce sont les voisins du Nord, les Québécois de plus de 65 ans, qui peuvent s'inscrire pour être vaccinés. Pas besoin pour eux d'être résidents ou d'avoir une propriété en Floride. Une proposition qui irrite nombreux Américains. Et puis, il y a ce cas exceptionnel. Pour les plus riches des Britanniques de plus de 65 ans, ceux qui appartiennent à un cercle londonien très fermé, moyennant 45 000 euros, eh bien, ils sont invités à résider à Dubaï pendant un mois. Voyage en première classe ou en jet privé, villa réservée et vaccin à double dose compris.
Voilà, pour 45 000 euros.
J'ai envie d'aller à Dubaï.
Tout de même, Bénédicte Tassard.
Mais pour un mois, c'est pas possible.
Non, ça va pas être possible.
Oui.
Lui s'est fait vacciner hier. Olivier Véran, médecin de formation, a voulu montrer l'exemple en se faisant injecter une dose d'AstraZeneca et a tenu d'ailleurs à rassurer sur l'efficacité du traitement britannique, estimant qu'il protégeait contre 99% des cas qui circulent en France. À Perpignan, 4 musées vont rouvrir ce matin en dépit des consignes nationales. Le maire Rassemblement National, Louis Alliot, a décidé de passer en force. La préfecture des Pyrénées-Orientales a saisi en urgence la justice.
Il est 7h03. Une vigilance orange étendue à 28 départements, nous disait Louis Baudin, et la Bretagne qui s'attend à des chutes de neige historiques.
Mais toute la région est en alerte, les transports scolaires suspendus, on attend localement jusqu'à 15 cm. Il faut remonter à 1986 pour observer une telle situation. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, c'est le plan grand froid qui a été déclenché alors que les températures ressenties ce matin dépassent les moins 15 degrés. À Calais, les associations qui viennent en aide aux migrants réclament des mesures d'urgence. Il y a certes les hangars chauffés pour passer la nuit, mais les conditions de vie en journée restent très compliquées. Reportage Franck Hanson.
Emmitouflés dans de gros blousons avec des gants qu'ils ont pu récupérer, des groupes de jeunes Soudanais, Afghans, patientent avant l'arrivée du bus qui va les emmener au chaud pour la nuit.
Au début, beaucoup froid, beaucoup, beaucoup. Dormir, difficile.
Dans une zone industrielle, près du site de l'ancienne jungle, la préfecture a fait aménager 2 hangars désaffectés. Lit de camp, chauffage bruyant et une salle pour recharger les portables. Ramzi Larkem, responsable de l'accueil.
On a installé des chapiteaux ici et à l'intérieur, on a installé des listes camp avec des duvets. On leur donne à manger, on discute avec eux. S'ils ont de la chaleur, on essaye de faire au maximum pour les accueillir dans de bonnes conditions. On tourne à peu près à 200 personnes par nuit, mais on a encore de la place, donc on peut en accueillir davantage. Il y a plutôt une bonne ambiance pour l'instant.
Un dispositif trop rigide et insuffisant, regrette des associations calaisiennes. Yann Manzi, animateur d'Utopia 56.
C'est la moindre des choses. La réalité, c'est qu'on les refout tous à la rue dès le matin à 9h30. Je ne sais pas comment ils font. Là, c'est intenable. Là, il y a danger de mort.
Les autorités répliquent que des solutions d'accueil sont proposées la journée dans des foyers loin de Calais et des côtes anglaises.
Un reportage de Franck Hanson.
Cette météo et cette vigilance orange, nous la suivons évidemment avec Louis Baudin. Neige et verglas notamment attendus en Ile-de-France dans la soirée.
Partons à Trappes à présent dans les Yvelines où le témoignage récent d'un prof de philo suscite pas mal d'interrogations. Lui se dit menacé après avoir tenu des propos contre l'islamisme. Le maire de la commune estime qu'il caricature. Qu'en est-il exactement? RTL a voulu savoir. Reportage sur place signé Alexandre de Saint-Aignan.
Sur les vitrines des coiffeurs de la rue Jean Jaurès, il n'y a pas de tarif affiché pour les femmes. Et pour cause, la plupart des coiffeurs sont des barbiers. Yasmine travaille dans le centre-ville, elle ne comprend pas cette polémique.
Les coiffeurs, il y a des coiffeurs mixtes à Trappes.
Sophie, elle aussi commerçante, ne connaît qu'un seul coiffeur mixte dans sa ville. Elle constate une montée du communautarisme.
Moi, si je veux pas manger halal, c'est compliqué à Trappes. Je peux pas. Donc, si je veux manger une bonne choucroute, je peux pas. Ça, voilà, ça c'est dans ce sens-là, mixité, il n'y a pas.
Mais pour Yasmine, il ne faut pas caricaturer. Trappes n'est pas un repère d'islamistes.
Bon, on va pas nier les faits. Il y a eu une période où il y a beaucoup de personnes qui sont parties en Syrie, mais c'est vrai, il y a beaucoup de cités, mais maintenant, le maire de Trappes, le nouveau et l'ancien, ils ont fait en sorte qu'il y ait beaucoup de nouveaux logements. Trappes, c'est une ville nouvelle.
Une cohabitation toujours délicate et fragile, plus de 50 ans après la construction des premières grandes barres HLM dans cette commune populaire des Yvelines.
Reportage signé Alexandre de Saint-Aignan.
Dans un instant sur RTL, nos enfants face à la pornographie, une campagne est lancée aujourd'hui qui vise à mieux les protéger. Restez avec nous.
RTL Matin.
7h07, la suite du journal de Dominique Tenza. Accompagner les parents pour mieux protéger les enfants face à la pornographie, c'est l'objectif du gouvernement.
Difficile de contrôler en effet tout ce qui apparaît sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. Un site internet aura donc désormais le rôle d'accompagner la mise en place d'un contrôle parental. Car les chiffres sont là. À 12 ans, selon des chiffres récents, près d'un enfant sur trois a déjà été exposé à de la pornographie. Vous l'avez constaté en discutant avec ses ados, Morad Jabari.
Oui, c'est une fois dépassé la gêne, les rires étouffés que Sacha a 13 ans, en classe de 4e, se confie, toujours un peu embarrassé.
Vous voulez savoir si vous aviez déjà vu des vidéos pornographiques?
Oui, c'est plutôt du hentai.
C'est quoi ça?
C'est un peu comme un animé pornographique, quoi.
Un dessin animé pornographique?
Oui, un animé, oui. C'est mon cousin qui m'a montré.
Et tes parents le savent?
Non, sûrement pas.
Et du coup, t'en regardes souvent maintenant?
Oui, souvent.
Ce collégien est loin d'être un cas isolé, il fait tout simplement partie des 60% des jeunes ados de moins de 15 ans qui ont déjà vu du porno, des photos, des vidéos, certains volontairement après une recherche sur internet et d'autres comme ce groupe d'élèves de 3e sans le vouloir.
Il y a des pubs sur des sites de streaming avec des femmes nues ou plein d'autres personnes. C'est un peu gênant quand par exemple on cherche un film et on tombe sur des pubs comme ça.
Mais on est obligé de tomber dessus. Bon, c'est pour ça généralement j'ai d'écarter mon petit frère quand je regarde un truc.
Et d'après Léna Romano, pédopsychiatre, les jeunes exposés à ces contenus pornographiques peuvent développer des troubles comportementaux.
L'enfant, je dis l'enfant parce que souvent ils sont précis. Ça les impacte et ça les perturbe dans leur sexualité, dans leur rapport au corps, ça leur fait faire des cauchemars, ça peut les conduire à des conduites agressives.
La vraie difficulté, c'est que bien souvent, les parents ne sont pas au courant ou ne savent pas comment aborder le sujet. Et les jeunes, un peu honteux, ne verbalisent pas leur mal-être.
Un reportage de Morad Jabari.
Alors, comment mieux protéger nos enfants contre le porno? Eh bien, nous en débattrons à 8h20 avec le psychiatre Serge Effez et Grégory Dorcel, qui dirige, lui, la société de Film X, Dorcel S.A.
Il avait 89 ans et il est mort hier dans son sommeil. Jean-Claude Carrière, écrivain, metteur en scène et scénariste de renom, nous a quittés. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Plusieurs fois récompensé, il est à l'origine de certains des classiques du cinéma français.
Oui, si le talent d'un scénariste est de nous faire croire aux histoires qu'il invente, alors Jean-Claude Carrière aura été un très grand scénariste. Mieux, un conteur des années 60 à la fin des années 90. Il nous a raconté les obsessions de Buñuel dans Belle de jour avec Catherine Deneuve, nous a fait plonger dans la piscine avec Romy et Delon, réinventer le film de gangster avec ce même Delon et Bebel, explorer le thriller paysan avec le retour de Martin Guerre en compagnie du couple Baye-Depardieu. Tiens, Depardieu, à qui il avait aussi donné la voix de Danton pour Vajda en 1983.
Dans Danton, il y a une seule scène avec Robespierre, face à face. Je lui dis, tu pourrais prendre la main, sans le lui dire, de l'acteur, la main sur ta gorge et lui dire, tu sens cette chair, tu devras la couper. L'autre a été tellement stupéfait. Le bon moment est resté dans le film, bien sûr, c'était magnifique.
La voix de Jean-Claude Carrière en septembre dernier au micro de Vincent Perrault sur RTL. Il était aussi, vous l'avez dit, écrivain, donc passionné de grands textes. Cyrano de Bergerac de Rostand, Le Hussard sur le toit de Giono pour Rapneau, L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera pour Kaufmann ou Les Liaisons dangereuses, revisité en Valmont pour Miloš Forman. N'oublions pas les romans, la télé, le théâtre. Oui, cet homme-là était un boulimique, un amoureux des mots.
Merci beaucoup Stéphane Boutsack.
On va terminer ce journal avec les courses qui ont lieu à Cannes-sur-Mer.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 13, le 10, le 11, le 12, le 4 et le 3. La dernière minute, c'est le 4. Holy Rolls.
C'était le journal de Dominique Tenza. La politique, avec vous, Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, c'est sérieux ?
Alors, ça reste une arlésienne, ah, Yves. Oui. Des milieux d'extrême droite, des identitaires, beaucoup le testent ou le poussent en fait. Et cette semaine, l'hebdomadaire L'Express, dans une enquête en trois volets, dévoile les réponses et les cachotteries du polémiste. À la question sur sa candidature, Éric Zemmour répond d'abord par un silence, puis par un large sourire. Il en rougit presque de bonheur. Dans sa sphère, Robert Ménard, le maire de Béziers, serait partant et un aéropage, raconte l'Express, lui prépare le terrain au cas où. Les signatures, le financement, rien ne peut s'improviser s'il finit par se décider.
Excusez-moi, pourquoi se lancerait-il dans pareille aventure ?
Bah pour gagner, pardi. C'est la réponse de n'importe quel candidat. Mais l'une des questions pour Éric Zemmour, et ce n'est pas une petite question, c'est de savoir s'il transforme ou s'il ruine ses succès de librairie et ses succès médiatiques. 470 000 exemplaires vendus pour Le Suicide français, son apogée, et des pointes à 800 000 téléspectateurs le soir. Le choix est moins anodin qu'il n'y paraît. Éric Zemmour veut-il continuer de gagner de l'argent et garder ses libertés ? C'est un choix de vie et aussi un choix de train de vie. Pas évident tout ça.
Vous ne semblez visiblement pas y croire.
Bah, la politique peut aussi révéler le plus mauvais rôle d'Éric Zemmour. Son discours notamment à la Convention des droites de Marion Maréchal, c'était en septembre 2019, et surtout c'était complètement raté. Les infréquentables adorent l'odeur de soufre que laisse traîner Éric Zemmour, mais ça n'est pas toujours très grand public. Et surtout, ça lui a valu plusieurs condamnations pour incitation à la haine notamment.
Bah alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui pousse Éric Zemmour ?
Alors il y a ceux qui espèrent que le polémiste sera candidat pour régler leur compte avec Marine Le Pen, qu'Éric Zemmour trouve complètement nul. C'est ceux qui ne croient plus aux chances et à la détermination de la présidente du Rassemblement National en 2022. Et puis il y a ceux qui sont soucieux de débusquer le moindre candidat potentiel à la présidentielle pour ne surtout pas être surpris par un succès de dernière minute que personne n'aurait vu venir.
Si je vous suis, Éric Zemmour pourrait surtout gêner Marine Le Pen, c'est ça ?
Oui, mais Marine Le Pen préfère en plaisanter et le réduit à un bon mot dans l'Express. Il y a vouloir et pouvoir, dit-elle. Quand j'étais jeune, je voulais être Miss France. L'entourage de la présidente du RN a été rassuré par les derniers sondages, au plus haut pour Marine Le Pen. Il n'y a pas photo, estime l'un de ses proches, ça casse les jambes de ceux qui se voyaient tenter quelque chose pour l'Élysée. N'empêche, dans les mois qui viennent, d'autres noms circuleront, c'est sûr. La présidentielle, pour l'instant, est un petit manège où chacun fait un tour, juste pour voir, comme ça, si ça fait son effet. C'est le tour, cette semaine, d'Éric Zemmour.
Merci beaucoup, Olivier Bost. L'actualité politique en temps réel est à retrouver sur le site RTL.fr. Et notre rendez-vous avec Alba Ventura, tout à l'heure à 7h40, sera avec le docteur Benjamin Rossi. Il est infectiologue en région parisienne et il nous aidera à comprendre la situation sanitaire, notamment la circulation des variants, en particulier dans nos écoles. Rendez-vous donc dans moins de 30 minutes. Dans un instant, les éoliennes de la Discorde, notre brigade de l'actualité, nous emmène sur la montagne Sainte-Victoire, où leur installation fait l'objet de très nombreuses critiques. Ils nous feront aussi un point sur l'énergie produite. Bonne ou mauvaise idée que l'éolien ? Les réponses avec Virginie Garin. Il est 7h14, merci d'écouter RTL.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi. Yves Calvi.
RTL Matin.
Dans une tribune publiée dans le Figaro la semaine dernière, une trentaine de personnalités, des écrivains, des membres de l'Institut, de l'Académie Goncourt, demandent donc à l'État de démanteler un parc éolien construit de façon illégale, disent-ils, sur des collines provençales, à une portée d'arbalète de la montagne Sainte-Victoire, au cœur de paysages d'une exceptionnelle beauté. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes donc rendu à Ollières, une des deux communes concernées. Vous avez constaté que les les habitants sont partagés, mais aussi que les anti-éoliens ne désarment pas, même si en fait, Étienne, les éoliennes tournent déjà.
Oui, 22 éoliennes de 125 mètres de haut qui culminent sur la crête de deux collines au cœur du Haut-Var et qui produisent déjà effectivement de l'électricité. Oui, mais voilà, la toile de fond n'est pas n'importe laquelle. Hein. La montagne Sainte-Victoire, ce joyau provençal, se trouve à une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau. Et ces éoliennes sont visibles de tous les alentours. Marc-Antoine Chavanis de l'association Sites et Monuments, une des associations vent debout contre, dit-il, ces monstres d'acier.
Ces éoliennes se trouvent exactement au milieu de trois sites absolument exceptionnels. Le premier, c'est le grand site de la Sainte-Victoire. Le deuxième, c'est le parc naturel régional du Verdon. Le troisième, c'est le parc naturel régional de la Sainte-Baume. Et on décide en fait de planter une industrie éolienne polluante en plein milieu. C'est incompréhensible.
Et au-delà de l'impact visuel, le constructeur n'a pas hésité à défricher ces collines couvertes de forêts et de chênes blancs. Un chantier pas très écolo, selon Marc-Antoine.
Il a fallu effectivement écréter la colline, déboiser et couler du béton. Chaque éolienne représente environ 1500 tonnes de béton coulées au sol qui sont là à demeure ad vitam aeternam. C'est-à-dire que on sait que la durée de vie de l'éolienne est de 20 ans. Et donc dans 20 ans, il faudra déconstruire. Déconstruire une éolienne, c'est 900 000 euros. Et ça veut dire en gros qu'on va laisser sur place les 1500 tonnes de béton, on va laisser les câbles et on ne pourra pas recycler non plus les pales qui font 45 mètres qui sont en carbone.
Et puis on sait aussi que ces éoliennes peuvent être des pièges pour les oiseaux.
Alors Étienne, on voit que ces associations sont opposées à ce parc éolien, mais qu'en pensent en fait les habitants de Lierre ?
Écoutez, on va dire qu'ils sont partagés. Il y a ceux qui, comme Sébastien, font contre mauvaise fortune bon cœur.
Moi, j'ai rien contre les éoliennes, vu qu'elles sont loin du village et tout, et elles dérangent personne, quoi. Je veux dire, je pense que c'est bien, les énergies vertes, tout ça, là, quoi. Je veux dire, il faut tabler sur ça, je pense.
Ça défigure pas un peu le paysage, là-bas ?
Ben, moi, elles me dérangent pas, quoi.
Et puis, il y a ceux qui sont un peu plus concernés. Joël élève des bêtes dans une petite ferme au pied de la colline. Elle est cernée par le parc éolien et par vent fort, ça devient intenable.
Ça fait comme si vous aviez un avion qui vous passe au-dessus, mais qui reste, vous voyez ? Lancinant. Nos oies sont complètement déboussolées, elles s'envolent de partout, elles pondent de plus. On est obligé de les récupérer un peu à droite à gauche, de les ramener dans les enclos. Les chiens qui aboyaient sans cesse en regardant les pales des éoliennes, alors que j'ai des chiens qui sont plutôt du genre calme, vous voyez, c'est pas des chiens turbulents. Tout le monde a été perturbé, hein. Et on comprend pas, c'est la première année que ça fait ça.
Alors Étienne, soyons clairs, ces éoliennes ont bien été autorisées à être érigées, elles ne sont pas illégales.
Oui, enfin c'est bien là que le bât blesse. En fait, les associations livrent une bataille juridique depuis plusieurs années. Et les opposants pensaient pouvoir faire stopper les travaux suite à un jugement en leur faveur du tribunal administratif de Toulon il y a un an, en février 2020. Mais quelques semaines plus tard, la préfecture du Var, dans un arrêté, demandait à l'exploitant de régulariser sa situation en présentant une nouvelle autorisation environnementale, mais... Et c'est ce que contestent les associations, tout en permettant la poursuite du montage des éoliennes. Provencialis, l'exploitant, n'en attendait pas tant. Et en 6 mois, les 22 éoliennes sont sorties de terre. Alors c'est cet arrêté que conteste aujourd'hui le maire de Lierre, Arnaud Fauquet-Lemaître, qui voit dans cette affaire une convergence d'intérêts, alors que la commune, elle, n'a aucune retombée économique. A noter que l'exploitant Provencialis, que nous avons tenté de contacter, est resté ces jours-ci injoignable.
C'est extrêmement rémunérateur. Vous avez bien évidemment l'exploitant, celui qui va installer les éoliennes et les exploiter ensuite. Le propriétaire des terrains, qui, je le rappelle, n'est pas la commune de Lierre, qui touche les loyers, le département, la communauté d'agglomération qui va toucher les taxes, et les services de l'État qui sont là pour faire appliquer la volonté de l'État sur la transition énergétique. En fait, il y a un groupement d'intérêts qui se fait au détriment des communes sur lesquelles les éoliennes sont installées.
Et pour aller plus loin, le maire lui aussi se pose en fait la question de l'intérêt écologique de ces éoliennes.
Merci beaucoup Étienne Baudu, RTL en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous allons trouver maintenant la chef de notre service qualité de la vie à la rédaction d'RTL. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de cette énergie qui divise même les écologistes eux-mêmes? Certains y voient une énergie propre, d'autres une pollution, entre autres de nos paysages. On va d'abord faire un bilan carbone d'une éolienne, Virginie. Pour construire des mâts et transporter, il faut dépenser de l'énergie. Donc une éolienne, ça émet quand même du carbone, nous sommes d'accord?
Oui, mais très peu si on compare en fait aux autres énergies. L'ADEME, l'Agence de l'environnement, a calculé toutes les émissions de carbone liées à la vie d'une éolienne, donc de la fabrication au recyclage, car elle se recycle. Eh bien, une éolienne émet 80 fois plus de CO2 qu'une centrale à charbon, 40 fois plus qu'une centrale au gaz. Donc, si on considère l'enjeu du climat, c'est l'une des énergies, avec le solaire, les plus écologiques.
En revanche, les éoliennes peuvent avoir des impacts négatifs sur l'environnement ?
Et oui, on l'a entendu dans le reportage, pour faire les fondations en béton, on détériore les sols, certains animaux peuvent être impactés, les chauves-souris, les oiseaux, on a vu des projets de parcs refusés car ils risquaient de perturber la migration des cigognes, ouais. Les nuisances sonores peuvent aussi déranger les riverains, même si avec les dernières technologies, les éoliennes sont quand même beaucoup moins bruyantes.
Bon, elles peuvent défigurer les paysages.
Alors, dans une enquête publiée le mois dernier par Harris Interactive, 3/4 des Français disent avoir plutôt une bonne image de l'éolien, énergie verte. Mais ils ne sont que 41% à dire qu'elles ont un impact minime sur les paysages. Donc oui, elles dérangent. Mais ceux qui les défendent font remarquer qu'une centrale nucléaire ou à charbon, ce n'est pas tellement plus gracieux.
Autre reproche, elles ne produisent pas tout le temps.
Alors, une éolienne, ça tourne, selon EDF, plus de 80% du temps, mais elle ne produit à son maximum qu'un quart du temps, ce qui permet quand même de fournir 8% de l'électricité en France, en moyenne, et ça peut monter, comme mardi dernier, il y avait beaucoup de vent, oui. À 14% de la production, et ces jours-là, quand il fait froid et que certaines centrales nucléaires sont arrêtées pour réparation, eh bien, ça permet d'éviter d'avoir recours au charbon.
Alors, près de 8000 éoliennes aujourd'hui tournent dans notre pays, on va en construire encore beaucoup.
Eh bien, si la France veut respecter l'accord de Paris sur le climat, il est prévu d'en installer 8000 de plus en 7 ans. Mais au rythme actuel, on n'y arrivera pas. L'année dernière, il y a eu des chantiers repoussés à cause du Covid. Il y a surtout des recours presque systématiques devant la justice. 90% échouent, mais ils retardent les projets. Ouais. Retard aussi de l'éolien en mer. Le premier parc est en construction au large de Saint-Nazaire. Il y en aura 10 autres, mais toujours aucun ne fonctionne alors que tout le nord de l'Europe s'éclaire avec de l'éolien maritime. À un prix désormais inférieur à celui du nucléaire.
Ben, elle est là peut-être la vraie difficulté française. Merci beaucoup Virginie Garin. Rendez-vous juste après 8h tout à l'heure avec Sophie Orange de notre brigade de l'actualité pour évoquer les séquelles du Covid. Dans un instant, neige, restaurant chinois et sifflement sur la colline.
RTL toujours avec vous. RTL Matin, Yves Calvi.
7h25, grand bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est l'heure de notre pépite.
Alors je vous propose de prendre les chemins de traverse ce matin et en effet d'aller siffler sur la colline. Siffler sur la colline, c'est le premier grand succès de Joe Dassin, sorti au bon moment, juste avant mai 68. Les radios s'étaient ensuite mises en grève et passaient essentiellement de la musique. On entendait donc siffler sur la colline jusqu'à 10 fois par jour. Voilà comment la chanson est devenue incontournable, sans compter qu'elle apportait son lot d'allégresse dans un contexte plutôt violent. À l'origine, c'est un morceau italien intitulé Uno Tranquillo du crooner Riccardo Del Turco, à qui l'on doit le gimmick Zai 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 Zai, c'est lui, hein. C'est tout ce que Joe Dassin a gardé des paroles, parce que sa version à lui raconte une histoire de drague à la campagne qui se termine en râteau. L'amour, la nature, la campagne, le groove et le folk du morceau, mais on retrouve tous ces ingrédients chez un de nos plus grands auteurs-compositeurs, Francis Cabrel. Cabrel avait 15 ans quand la chanson est sortie, il se souvient l'avoir immédiatement adorée. Voilà pourquoi quelques années plus tard, il a repris ce titre de Joe Dassin à sa façon, et c'est très joli. C'est notre pépite du jour, Francis Cabrel chante « Siffler sur la colline ».
On écoute.
Du village, un jour je lui ai soupiré que je rêvais d'être une pomme suspendue à un pommier et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Avec un petit bouquet d'églantines, j'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Elle n'est jamais venue.
Voilà, Francis Cabrel, qui s'est débarrassé du tambour à frapper sur la cuisse et du folklore des Zai 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 Zai.
Ah oui.
On trouve cette belle version, si jolie comme tout, de Siffler sur la colline dans l'album collégial Aujourd'hui Collector. On le trouve peu, hein. Chacun peut y mettre du sien, sorti en 99, vendu à l'époque au profit de Solidarité en France Ida. On trouve aussi sa version sur le net.
Vous nous ferez découvrir un jour Ricardo Del Turco, parce que
oui, parce que c'est lui qui a fait les petits pains au chocolat. Et donc je ferai ça avec. Voilà, je vous apporterai les petits pains au chocolat et Ricardo Del Turco.
Avec bonheur, merci Anthony. On vous retrouve demain avec une nouvelle pépite. Et puis à tout moment, en podcast sur RTL.fr. Les grosses têtes, Laurent Ruquier, nous font rire chaque jour, de 15h30 à 18h. Et ce matin, c'est Isabelle Mergo qui a vécu une drôle d'expérience chez un traiteur chinois. Voilà.
Dans le chinois, tu demandes de me chauffer les plats et donc il met un fil.
Il chauffe les plats dans votre chambre.
Mais non, je les emmène. Il met un film transparent. Alors pour enlever le film transparent, walou. Ouais. Donc il me donne une fourchette en plastique. Oh. Alors je crève avec la fourchette, ce qui fait que l'autre fois, alors là, évidemment ça casse.
C'est pas le premier film que vous allez saboter.
Et évidemment ça. Oh, j'en ai pas saboté beaucoup. Hein. La fourchette, elle perd ses dents parce qu'elle est en plastique. Et l'autre fois, j'ai mangé.
Ça me rappelle quelqu'un.
L'autre fois, j'ai quand même mangé des nouilles chinoises avec une fourchette à une seule dent. Et ben, je vous jure qu'il faut le faire. Dans ma petite,
ça s'appelle des baguettes. Une baguette.
Ah, et depuis le gros studio RTL, vous retrouverez dès 15h30 Laurent Ruquier avec Stéphane Plaza, Elise Moon, Isabelle Mergo, Michel Faux, Florian Gazan et Ariel Dombal. Louis Bodin.
Oui.
C'est le grand moment parce que ça y est, les premiers flocons arrivent sur le Finistère. Oui. M'avez-vous soufflé il y a quelques
exactement, je les vois là, vous savez, hein, j'ai les images en direct dans le studio. Ben, je vois ces premiers flocons qui tombent là sur le Finistère. Et ça annonce donc un épisode de neige qui va se prolonger tout au long de la journée sur la Bretagne, hein, sur l'ensemble des départements. Voilà pourquoi ces départements sont en vigilance orange. On attend jusqu'à 5, 10 cm, voire 15 cm par endroit d'ici la fin de la journée, parce qu'il va neiger toute la journée sur la Bretagne. En cours d'après-midi, cette neige arrivera sur la basse Normandie, sur une partie de la vallée de la Loire. Et ce soir, mais seulement ce soir, sur l'Île-de-France, hein, sera probablement entre 20h et 22h sur la région parisienne, sur le centre, où là aussi, on attend peut-être entre 5 et 7 cm. Donc un épisode un peu plus conséquent que ce que je vous disais hier. Et puis comme évidemment les sols sont gelés, ça tiendra très facilement. Donc cet épisode ensuite se décalera entre la nuit prochaine et la journée de demain sur les régions du nord-est, où là aussi hein, ça donnera entre 5 et 10 cm de la Bourgogne à l'Alsace. Dans la moitié sud, la même perturbation donnera de la pluie en pleine, mais de la neige sur les Pyrénées, le Massif central, et puis la nuit prochaine sur les Alpes. Il y a près de la Méditerranée où on échappera à cette dégradation. Le tout avec des températures hivernales, moins 7 degrés à Cambrai en ce moment. Et cet après-midi, ça ne dégèlera pas entre la région lilloise et la région parisienne. Dans Paris, moins 1 degré cet après-midi, alors que dans la moitié sud, on sera entre 10 et 13 degrés. Oui, gros contraste entre l'extrême nord et le sud de la France.
Et on suit tout cela avec vous pendant toute cette matinale. Il est 7h31.
RTL Matin, Yves Calvi.
C'est l'heure du Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 9 février. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est d'abord la parole d'une survivante. Sœur André est la doyenne des Européens. Elle fêtera jeudi ses 117 ans. Le mois dernier, elle a été testée positive au Covid-19 dans son EHPAD de Toulon. Et aujourd'hui, eh bien figurez-vous qu'elle est tirée d'affaire. Alors elle est parfois un peu dure d'oreille. C'est donc grâce au chargé de communication de l'EHPAD, David Tavella, qu'elle a pu répondre aux questions d'RTL. Alors ma sœur, paraît que vous avez eu le Covid.
Je ne sais pas, on ne l'a pas dit. On me soigne et on ne me dit pas ce qu'on donne.
Ma sœur, je vous avais dit que vous aviez le Covid.
Ben oui, mais je l'ai oublié.
Parce que vous n'avez eu aucun symptôme.
Non.
Sinon, vous vous en seriez rappelé, ma sœur.
Oui. Vous savez, à 117 ans, on n'est pas vailleurs. Je suis toute patraque, toute endolorie.
Mais endolorie, c'est pas par rapport aux 117 ans, vous pensez pas, ma sœur?
Aussi.
Ah oui, peut-être plus que le Covid.
Oh ben, c'est les deux.
Les deux, sœur André au micro RTL d'Agnès Bonfillon. Les musées vont-ils rouvrir aujourd'hui à Perpignan? Le maire Rassemblement National, Louis Alliot, a pris hier un arrêté en ce sens. Alors que la règle reste la fermeture, le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le tribunal administratif en urgence. À Nice, la justice a retoqué l'arrêté municipal qui interdisait les locations saisonnières pendant les vacances d'hiver. Elle estime que cela porte atteinte à la liberté de disposer de ses biens, tout simplement. Le maire, Christian Estrosi, a l'intention de porter l'affaire devant le Conseil d'État.
Ça fait partie de ces bizarreries. Où voyez-vous, lorsque j'ai pris des arrêtés pour imposer le port du masque, lorsque j'ai pris des arrêtés pour le couvre-feu, lors du premier confinement, ce même tribunal administratif estimait que j'étais fondé à prendre ces décisions parce que le préfet ne les prenait pas.
Christian Estrosi, invité d'RTL Soir avec Thomas Soto.
7h33, il fait donc un froid de canard, 28 départements sont en alerte.
Le plan grand froid a été activé dans le Nord et le Pas-de-Calais. Dans une vingtaine d'autres départements, c'est l'alerte à la neige qui a été déclenchée. C'est le cas notamment dans les 4 départements bretons. On attend 5 à 10 cm en moyenne, 15 localement, Louis nous le disait. D'où cette mise en garde d'Élise Daboui, la directrice de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine.
Le conseil que nous donnons à la population, c'est de différer tous les déplacements qui seraient non indispensables, de faire preuve d'une très grande vigilance et de suivre l'évolution des conditions météorologiques. Des mesures de restriction ont d'ores et déjà été prises pour les poids lourds sur le réseau routier national de la zone ouest.
Propos recueillis par Patrice Gabard. Des chutes de neige attendues dans la journée aussi de la Normandie à l'Alsace en passant par l'Île-de-France. Attention hein, en sortant du travail en fin d'après-midi. Avec ces températures négatives, on a tendance à pousser le chauffage. Éric Vanier, est-ce que ça peut poser un problème sur le réseau électrique? Clairement, est-ce qu'il faut craindre des coupures?
Oui, il y a du souci à se faire car cette séquence de grand froid sera plus intense que celle de début janvier et 11 réacteurs nucléaires sur 56 sont toujours à l'arrêt à cause du retard pris dans les opérations obligatoires de maintenance suite aux deux confinement, à quoi il faut ajouter demain le nouvel appel à la grève à EDF qui viendra perturber la production. RTE reste quand même serein car plusieurs facteurs vont jouer les amortisseurs. Les turbines des barrages tournent à plein régime grâce à la pluie abondante de ces derniers jours. Le tiers sud de la France devrait échapper à cette plongée des températures. Le couvre-feu et les vacances scolaires tassent la demande d'électricité et on est déjà en février. Il est toujours plus facile de gérer un pic de froid maintenant quand la lumière du jour commence à revenir, plutôt qu'en décembre ou en janvier, quand les nuits sont interminables. Ça devrait donc passer, sauf si un imprévu, un gros incident technique par exemple, vient compliquer la situation.
Éric Vanier a noté que 6 départements restent en alerte orange pour forte pluie et crue. À Saintes, la Charente a atteint son pic hier à 6,20 m et la décrue devrait s'amorcer dans la journée. Mais le froid, bien sûr, vient compliquer la situation pour les sinistrés. Aux États-Unis, c'est Donald Trump le retour. L'ex-président américain affronte aujourd'hui un deuxième procès en destitution. C'est du jamais vu. Cette fois, il est poursuivi pour incitation à l'insurrection après l'assaut contre le Capitole qui a fait 5 morts le mois dernier. Donald Trump a prévenu qu'il ne témoignerait pas.
Ça ne vous a pas échappé, j'imagine. Imagine, la Saint-Valentin approche.
Oui, il y a des petits cœurs partout. Oh. Pour les fleuristes, c'est le début d'une nouvelle saison qu'ils espèrent meilleure que la dernière. L'an dernier, avec le confinement, 100 millions d'euros de fleurs ont été jetés, 5000 emplois supprimés. Michael Mercier, président de la filière fleuriste horticulture, veut croire au renouveau.
Sachant que malheureusement, on ne pourra pas aller au restaurant ou au cinéma, c'est un bon moyen en fait de fêter les amoureux, l'amour à travers des fleurs. C'est un peu le début pour nous du printemps. C'est une grosse période d'activité, hein. 50% de l'activité, autant dire que c'est considérable pour toute la filière.
Propos recueillis par Armel Lévy. Le foot, les clubs de Ligue 1 font leur entrée ce soir en Coupe de France. 3 matchs à suivre. À 18h30, Lorient reçoit le Paris FC et Reims affronte Valenciennes. Et puis à 21h, Lyon sera opposé à Ajaccio. Et puis on a appris cette nuit la mort de Jean-Claude Carrière, un athlète de l'écriture, à la fois écrivain, scénariste et auteur dramatique. Il a écrit environ 80 ouvrages, dont La controverse de Valier de Lide, son roman le plus célèbre. Au cinéma, Carrière a travaillé notamment avec Jacques Tati et Louise Buñuel. On lui doit Borsalino, Le retour de Martin Guerre ou encore Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu. Bref, une carrière extrêmement prolifique qui ne doit rien au hasard.
En général, on dit que les auteurs sont inspirés. Ils ont comme ça des idées qui leur viennent. C'est pas vrai du tout. Il faut savoir, comme disait Buñuel, que l'imagination est un muscle. L'imagination est un muscle qui est sans limite, mais il faut l'entraîner. Il faut lui donner de la matière tous les jours. Sinon, ah, elle oui. s'endort.
Jean-Claude Carrière avait 89 ans, il n'était pas malade, il s'est éteint dans son sommeil.
C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On va se retrouver à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, nous irons en Afrique à la rencontre de ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui deviennent des parias.
À tout à l'heure. Il est 7h37. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Ce qui vous démange ce matin, c'est une histoire de puce.
On en met partout dans tous les objets industriels. Ah, oui. Or, la pénurie mondiale s'est installée et vous allez voir que ce tout petit objet fait l'objet justement d'une guerre géopolitique le plus importante du moment.
Pénurie de puces électroniques. Vous nous expliquez tout cela dans un instant dans l'angle écho et ça se passe sur RTL. À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, l'angle écho avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
Les constructeurs automobiles mettent à l'arrêt leurs usines dans le monde entier faute d'un composant absolument essentiel.
incroyable. Il manque des composants électroniques, ou ce qu'on appelle aussi des circuits intégrés, pour lesquels la pénurie est mondiale. Renault arrête ainsi l'usine de Sandouville en France, une autre au Maroc. PSA a fermé l'usine Opel d'Eisenach, c'est en Allemagne. De Saragosse, c'est en Espagne. Et aussi Nissan, Honda, Ford, Daimler, qui fabriquent les Mercedes, et Volkswagen, tous connaissent la même mésaventure. La production mondiale de véhicules pourrait être amputée d'1,5 million sur le premier semestre 2021, sur 50 millions produits habituellement.
Mais c'est absolument ahurissant comme chiffre. Il y a autant de puces que ça dans une voiture ?
Mais de plus en plus, avec l'automatisation croissante et puis le développement des systèmes d'aide à la conduite, radars, etc., qui ont amélioré la sécurité. En fait, les nouvelles voitures sont plus sophistiquées qu'un avion, du point de vue électronique.
Mais comment se fait-il qu'on manque de puces, alors ?
Un boom extraordinaire de la demande à cause de la consommation féroce de micro-ordinateurs depuis le début de l'épidémie, c'est le développement du télétravail. Ah ouais. Idem pour les serveurs, massivement développés cette année avec l'essor des réunions à distance et du stockage de données. Toutes ces machines consomment énormément de microchips, sans oublier le démarrage de la 5G, qui a également tiré sur les réserves, et puis le lancement d'un nouvel iPhone, qui crée toujours un appel d'air.
C'était beaucoup, hein.
Or, oui, simultanément, c'est énorme, et l'industrie automobile paye ses composants plutôt moins cher que la téléphonie, parce que elle serre ses coûts davantage, donc elle est contrainte de prendre la file d'attente. Là où il y avait 8 à 12 semaines pour la livraison, c'est aujourd'hui 26 à 40 semaines, un an même pour certains produits.
Alors expliquez-nous, qui fabrique des puces ?
Le premier producteur mondial, c'est une île de 25 millions d'habitants au large de la Chine, indépendante et démocratique, Taïwan, qu'on appelait naguère Formose. Oui, absolument. Et il y a là notamment le géant TSMC qui possède une expertise sans pareil pour la production et pour la découpe de circuits intégrés de très petite taille. C'est par exemple le seul industriel au monde à être parvenu à fabriquer des pièces inférieures à 10 nanomètres. Un nanomètre, oui, c'est un millionième de millimètre. Donc, vous voyez, c'est pas très grand. Même une entreprise très avancée comme l'américain Intel n'a pas réussi, pas plus que la Chine, à qui on refuse d'ailleurs de vendre les machines ultra complexes qui permettraient de le faire, pour des raisons de sécurité et défense. Taïwan possède donc une expertise unique au monde sur un produit qui est devenu critique pour l'activité mondiale à cause du poids croissant qu'occupent l'électronique et le numérique. Du coup, cette petite île indépendante représente maintenant un enjeu géopolitique considérable.
Ah oui, on le comprend. C'est-à-dire qu'elle suscite tout simplement des convoitises.
Oui, de part et d'autre, la Chine considère que l'île lui appartient pour des raisons historiques, culturelles, stratégiques, et refuse de reconnaître le gouvernement qui est en place. Au contraire, les États-Unis le protègent et lui vendent d'ailleurs des armes pour se protéger de Pékin. Il y a quelques jours, la Chine a simulé l'attaque d'un porte-avions américain au large de Taïwan pour lancer un avertissement à la nouvelle administration américaine. Taïwan est devenu le point névralgique, de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, parce que c'est là qu'est produit l'or blanc, ces composants électroniques dont nous sommes devenus si dépendants.
Ben vous venez de nous annoncer la future éventuelle guerre des puces. Merci François.
Absolument.
Langlais. On se retrouve demain matin sur RTL. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Faut-il fermer les écoles ? Faut-il s'inquiéter des variants sud-africains et brésiliens détectés dans des établissements scolaires ? Quel est l'état des services hospitaliers ? Ce matin, pour en parler, je reçois le docteur Benjamin Rossi, infectiologue au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
Et rendez-vous sur l'application mobile RTL pour suivre cet entretien en direct vidéo. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le docteur Benjamin Rossi, infectiologue au centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois.
Bonjour docteur Benjamin Rossi.
Bonjour.
Les syndicats de médecins scolaires appellent à fermer les écoles pendant 4 semaines. Certes, les vacances ont commencé, mais ils estiment que 2 semaines, ce n'est pas suffisant pour freiner l'épidémie. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets ?
Alors, ça dépend. Pourquoi ? C'est-à-dire que on a une situation virale actuellement avec une circulation du coronavirus depuis quasiment le mois de septembre ou sur un plateau haut qui est monté très haut au mois de novembre et qui est un peu redescendu. Donc on est sur une circulation virale permanente. De savoir si il est important pour cela de fermer les écoles, je ne sais pas si c'est nécessaire. Beaucoup de gens donnent leur avis depuis le début de cette crise sur les restrictions qu'il faut donner ou pas donner. Je crois qu'il faut être pragmatique sur la situation sanitaire que l'on voit. pour le moment, elle est en plateau, donc je ne crois pas qu'il faille. Il va avoir les vacances et je pense qu'on a 2 semaines pour pouvoir voir comment les choses évoluent. Il faut arrêter d'être alarmiste.
Quand vous dites qu'il faut être pragmatique, ça veut dire qu'il faut voir quasiment au jour le jour.
Oui, c'est ça. Enfin,
on ne peut pas prendre de décision en vérité. On ne peut pas se projeter.
On peut se projeter. À un moment, cette crise va être derrière nous. L'humanité a traversé tellement de crises depuis le début de son histoire. On va se projeter. On sera un jour après. Il faut voir comment on va sortir de cette crise et quand on va sortir de cette crise. Mais là, pour les mesures de restriction qui nous incombent les semaines prochaines, il faut être pragmatique. Il y a les vacances qui arrivent, les écoles vont être de toute façon fermées. On verra bien ce qui va se passer.
Vous parlez de ce long plateau, du nombre de cas qui ne bouge pas beaucoup depuis plusieurs jours. Comment est-ce qu'on l'explique, ça ?
On l'explique parce qu'il y a quand même des mesures de restriction qui sont mises en place en France depuis maintenant plusieurs mois. J'ai entendu beaucoup de gens parler par rapport à la diffusion des variants, notamment le variant anglais, est-ce qu'il va y avoir une explosion épidémique. Mais enfin, moi, ce que je dis depuis le début, quand on me pose cette question, donc depuis le mois de fin décembre, début janvier, le variant anglais est associé à plus de contamination chez des gens qui sont sans masque et qui vivent sans période de restriction. Mmh. Est-ce qu'on a plus de contamination quand on a des mesures de restriction ? Déjà, on le sait. On n'a pas les études, on le sait pas, et probablement, c'est moins le cas.
Notre couvre-feu, les fermetures des bars, des restos, des lieux culturels, des grands centres commerciaux.
Tout ça, efficacité.
Finalement, ça fonctionne.
Ça fonctionne. Ça dépend toujours ce qu'on cherche. On est sur un plateau, ça veut dire que quand même les gens s'infectent. Il y a quand même des gens qui meurent tous les jours. On n'est pas sur une situation où le virus ne circule pas. Mais pour le moment, ça met en tension les hôpitaux, mais on n'est pas débordé.
Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les Anglais, eux, se sont fait déborder.
Les Anglais se sont fait déborder puisqu'ils n'avaient à ce moment-là, pas les mêmes mesures de restriction.
Mais vous, docteur, du coup, vous n'êtes pas pour le reconfinement ?
Je pense que, en fait, c'est un objectif de société, c'est-à-dire que la décision de reconfinement, c'est une décision politique. Est-ce qu'on veut, par exemple, stopper complètement la circulation du virus pour éviter qu'il y ait des morts, il y a quand même 200 morts tous les jours, 300 morts tous les jours actuellement, après essayer de s'armer ? Ou est-ce qu'on préfère associer une situation sanitaire et une situation économique, trouver un équilibre entre le fait de ne pas être débordé et d'avoir une surmortalité liée au fait que les hôpitaux ne puissent plus accueillir les patients et une situation économique. Cette situation, cette décision, elle est politique.
On va revenir, si vous le voulez bien, sur les variants, parce que des établissements scolaires ont quand même été touchés, cette fois par les variants sud-africains et brésiliens. Alors ça a l'air minime pour l'instant, mais qu'est-ce que l'on sait déjà de ces mutants ? Est-ce que là aussi, il faut être en alerte ?
Alors, le variant sud-africain, on n'est pas minime hein, quand même. Moi, sur notre établissement, on a à peu près à 5% de d'infections qui sont avec le variant sud-africain.
Dans votre hôpital ?
Oui, oui.
5%
à peu près, oui, peut-être entre 3 et 5%, ouais. Et pour le variant donc brésilien, on n'en a pas eu, mais effectivement, ces deux variants-là ont la caractéristique, donc c'est-à-dire qu'ils ont la même mutation que le variant anglais, celle qui est censée conférer donc une plus grande contagiosité, et ils ont une deuxième mutation qui est la E484K, qui est une mutation qui pourrait conférer un échappement aux anticorps et au système immunitaire. Donc ils pourraient être plus source d'infection.
Et qui échappent donc aux vaccins, enfin en tout cas pour lesquels les vaccins sont moins efficaces.
Alors, échapper aux vaccins, non. Les vaccins sont moins efficaces sur les formes symptomatiques. Après, pour le moment, sur les formes graves, on a l'impression que les vaccins gardent une efficacité. Ça diminue quand même le taux de formes graves et le taux d'infection, les vaccins sur ces formes-là. C'est juste que le taux de couverture n'est pas aussi bon.
Il y a d'autres variants, à part l'anglais, le sud-africain, le brésilien, qui circulent ?
En fait, je pense que ces mutations-là, qui sont en train... On a même vu maintenant la mutation E484K sur le des souches anglaises.
Donc, vous dites qu'en gros, le variant anglais mute encore, est en train de muter.
C'est des mutations qui vont arriver. Dès qu'elles arrivent, elles sont sélectionnées puisqu'elles donnent un avantage au virus. C'est-à-dire que l'objectif d'un virus, c'est de se répliquer. Pour se répliquer, il a besoin de rencontrer ses cellules cibles. Donc s'il a une mutation qui lui confère une facilité pour rencontrer sa cellule cible et donc se répliquer, cette mutation va être sélectionnée. Une mutation va lui permettre d'échapper au système immunitaire. Donc si ça lui permet d'arriver jusqu'à ses cellules cibles sans se faire tuer par des anticorps, cette mutation va être sélectionnée. Après, toute la question, c'est que ces mutations-là vont diffuser, c'est de savoir est-ce qu'elles vont être associées à des formes graves. Ce qu'on espère tous, c'est qu'une fois qu'on est vacciné ou une fois qu'on a fait l'infection, ces nouvelles infections ne sont pas aussi graves. C'est ça qu'on souhaite. On attend d'avoir du recul sur ces données-là. En science et en journalisme, on n'a pas vraiment le même temps. Nous, c'est sur un temps long, donc on attend d'avoir des preuves solides. Vous voulez des réponses immédiates, mais pour les avoir, il faudrait qu'on ait déjà des études qui reviennent.
Alors, réponse immédiate. Le variant anglais, c'est lui qui va l'emporter, il va être majoritaire?
Disons qu'en tout cas, cette mutation-là, la mutation qui confère une plus grosse infectiosité, c'est sûr qu'elle va être majoritaire à un moment, oui.
J'entends dire que c'est autour du 1er mars, j'ai lu ça dans les journaux.
Oui, ça c'est toujours un petit peu des prémonitions, mais probablement que oui, on ne doit pas être loin de cette date-là. Ouais.
Il y a des clusters dans les hôpitaux?
Alors, des clusters dans les hôpitaux, on en a eu beaucoup depuis le début de cette crise, depuis le mois de mars, puisqu'on est forcément très exposé, donc il y a du personnel, il y a des gens malades, et donc oui, il y a eu des clusters. L'objectif des mesures qu'on essaye de mettre en application dans les hôpitaux, c'est d'éviter ces clusters-là. Mais c'est compliqué, puisqu'on a pas beaucoup de moyens. On aimerait bien avoir que des chambres seules pour éviter ça, mais on ne peut pas, puisqu'on manque de place. Et puis, en plus, on veut nous fermer des lits. Moi, si je devais vraiment revenir sur la problématique principale que l'on a, nous, hospitaliers, dans cette crise, c'est que ça fait un an que ça dure parce qu'on manque de place à l'hôpital, mais que des renforts à l'hôpital, on réussit pas à en embaucher parce que les gens sont pas suffisamment payés, qu'on n'a pas suffisamment de place, et que ça n'a pas changé depuis un an.
Je vous trouve quand même, par rapport au virus, assez serein. Vous n'emploierez pas des termes comme du sang et des larmes, le calme avant la tempête?
Je crois que les gens sont fatigués d'être stimulés, inquiétés en permanence. Je suis pas. Disons que c'est une situation sanitaire inédite. On va la traverser tous ensemble, je pense. On va arriver au bout de cette crise. La question, c'est de savoir comment, et je pense que c'est plus par plus de solidarité. Si on est toujours en train de passer notre temps à diffuser notre colère dans les médias, je pense que on crée juste une forme d'instabilité permanente, d'une fatigue permanente, une fatigue psychique. Je crois qu'on a besoin de solidarité, de se retrouver tous ensemble pour battre contre un ennemi commun, qui est cette infection. Du sang et des larmes, je pense qu'on en a tous eu depuis un an. On a vu beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens décédés à l'hôpital. On a eu beaucoup de moments difficiles. Donc c'est pas besoin de haranguer ces paroles-là.
Vous leur en voulez beaucoup d'utiliser ces termes-là très alarmistes?
Non, je n'en veux à personne. Moi, je veux juste qu'on puisse faire notre travail dans de bonnes conditions.
Encore sur l'hôpital, est-ce que les méthodes que vous employez en 2020 sont encore valables en ce début de 2021?
Alors, sur notre service, on a utilisé des moyens de traitement assez rapidement parce qu'on a été très vite débordé et qu'on avait on a utilisé assez rapidement les corticoïdes et un autre traitement qui est un anti-IL-6 qu'on continue à utiliser dans les formes graves qui semblent être efficaces. Donc après il y a des choses qui ont changé. Il y a des médicaments qu'on n'utilise plus puisqu'on a montré que ça ne fonctionnait pas. Il y a des méthodes de ventilation qui se sont améliorées. Donc c'est en mutation perpétuelle. On s'améliore, on affine.
La docteur, vous déprogrammez certaines opérations, certaines interventions?
Alors il y a des interventions actuellement. Alors moi je m'occupe pas du bloc opératoire, mais je sais que pour le moment on ne déprogramme pas, mais il y a la question qui se pose en cellule de crise en fonction de si on devait monter en charge, parce que là la réanimation commence à être un petit peu saturée.
Docteur Benjamin Rossi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a eu raison de se faire vacciner devant les caméras?
Je pense que c'est didactique. Après, je crois qu'il y a une période où tout le monde, personne ne voulait se faire vacciner. Maintenant, les gens, je pense, ont fait leur bonhomme de chemin et ont plus envie de se faire vacciner. Je crois que c'est bien de continuer dans cette démarche-là. La vaccination fait partie des traitements qui ont permis d'augmenter l'espérance de vie des êtres humains. Donc, je pense que être juste contre la vaccination par principe, c'est dommage. Et je crois que c'est bien que nos politiques montrent l'exemple.
Mais pourquoi les soignants sont-ils aussi réticents à se faire vacciner? Et plus les soignants sont au contact des patients, moins ils veulent se faire vacciner. Dans l'échelle, par exemple, on entend dire que les aides-soignantes sont plus réticentes que les infirmières, que les médecins.
Oh, je ne sais pas, c'est des mesures qui leur ont été imposées. Vous savez, à l'hôpital, il y a pas mal de choses. On dit, vous êtes obligé de vous vacciner contre la grippe, obligé de faire ça. Je crois que personne n'aime se faire forcer. Et donc, du coup, à partir de ça, il y a des raisonnements qui sont créés, qui sont pas toujours les bons. Après tout, je crois qu'avec de la communication et en discussion avec les équipes, les gens sont moins en moins réticents pour se faire vacciner.
Et vous, alors? Je sais que vous êtes jeune, mais vous.
On a discuté de ça. Moi, je suis en dessous, j'ai moins de 50 ans. J'ai déjà fait l'infection par la Covid, donc je pense pas que je vais être prioritaire. Mais dès qu'on pourra se faire vacciner largement, je le ferai.
Dernière question. J'ai entendu dire que des soignants ont été infectés entre les deux doses de Pfizer. Est-ce que vous avez entendu cela, notamment à l'hôpital Tenon de Paris?
On sait très bien que la couverture, elle est donc la couverture maximale du vaccin, c'est une semaine après la deuxième injection. Donc, effectivement, après la première dose, on n'est pas complètement couvert. Donc, c'est pas étonnant. Il y aura des cas. J'ai entendu parler de cas un peu partout, pas qu'à Tenon.
Rien d'alarmant. Merci beaucoup, docteur Benjamin Rossi. Je rappelle, infectiologue au Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger, d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
On va sortir de cette crise. L'humanité en a vu d'autres, vient de nous dire le docteur Rossi. Avec ce plateau qui dure et les vacances de février, on a le temps de voir venir, en particulier pour nos écoles. Merci beaucoup. Ça fait du bien d'entendre un médecin pondéré. Je retiens aussi que vous nous avez dit qu'on avait besoin de solidarité pour affronter cette crise. Bonne journée à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Dans un instant, Cyprien Assini surfe ce matin avec la maire de Paris, Anne Hidalgo.
RTL Matin, le surf de l'info, Cyprien Assini.
7h56, Cyprien, en route pour 2022.
Pour l'instant, c'est un peu l'autoroute de l'enfer, cette affaire-là. Vous entendez? Ça, c'est le mouchon à gauche. C'est l'embouteillage des prétendants. Alors, visiblement, ils veulent tous y aller, mais il n'y a personne qui veut le dire. C'est un peu le ni oui ni non de la présidentielle. Hier, Anne Hidalgo, sur Info, qui a déclaré...
C'est pas du calcul, la politique.
Non, pas du tout du calcul. Non. Et donc, sur la présidentielle...
Je veux prendre ma part. Je vais prendre ma part dans le débat qui vient. Parler, agir.
Ni oui ni non. Prendre sa part, parler, agir, travailler, quoi. Mais François Hollande, il était pas déjà un peu sur le même créneau?
Ce que je peux faire, c'est travailler sur le projet.
Pareil, il est prêt à travailler. Et Ségolène Royal, il va pas.
C'est une probabilité. Ah. Ça sera une décision collective, puisqu'il faut rassembler.
Ils sont forts quand même, à ni oui ni non. Hein. Et sinon, le projet pour Anne Hidalgo, c'est quoi?
Essayer de construire un chemin qui permette d'avoir une alternative à ce duel annoncé, à ce deuxième tour déjà programmé.
Ah, le chemin avancé, là, alternatif à Le Pen, Macron et François Hollande, alors.
La question majeure, c'est qu'est-ce qu'on propose aux Français? Qui peut représenter l'alternative dans cette situation?
L'alternative, bien sûr. Et Ségolène Royal, elle ne nous ferait pas le coup de l'alternative aussi?
Pour que les Français aient un choix alternatif à l'élection, le mot de la fin, présidentielle.
Eh ben voilà, le compte est bon. Et chez les Verts, il est sur quoi, Yannick Jadot?
Et je suis convaincu aussi que on trouvera le chemin pour une candidature commune, pour éviter le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Ah ben, le chemin alternatif pour éviter le duel. Mais alors, bizarrement, hein, chez les Républicains, on serait pas aussi un peu sur le même chemin, là, le alternatif avec Éric Ciotti et Gérard Larcher?
Les Républicains sont les seuls qui incarnent une alternative crédible.
Moi, j'ai un seul objectif, c'est que les Françaises et les Français aient une alternative à Emmanuel Macron, et que ces alternatives ne se résument pas à Marine Le Pen d'un côté et Jean-Luc Mélenchon.
Eh ben, si c'est pas un débat riche que j'annonce, qui s'annonce, ça. Bon, après, bonne nouvelle hein, pour François Hollande quand même, c'est qu'Anne Hidalgo, il y a 6 mois sur la présidentielle.
Non, surtout pas. Vous pouvez archiver. Alors là, allez-y, vous verrez, je suis quelqu'un de très clair.
Mais bien sûr, oui. Et Ségolène Royal en 2014.
J'ai renoncé à toute ambition présidentielle.
Et on n'a pas fini de les entendre, ces deux extraits, surtout que 2022. Ça, j'avais pas aussi loin.
Merci beaucoup. On vous retrouve ce soir avec Thomas Soto, entre 18h et 20h dans RTL Soir.
Absolument, le monde de demain.
Le monde de demain. On va s'intéresser au monde d'aujourd'hui avec notre météo. Et bon, voilà, la neige qui arrive sur le pays.
Oui, voilà, c'est l'hiver. La neige qui arrive avec une perturbation qui va traverser la France d'ouest en est. Mais cette perturbation va rencontrer l'air froid qui s'est installé sur la moitié nord. Et ça va donc donner de la neige. Alors, ça va commencer ce matin par la Bretagne. La Bretagne sera concernée toute la journée, d'où les 10 à 15 cm attendus. Et puis en cours d'après-midi, ça arrivera sur la basse Normandie, sur la vallée de la Loire. Les plus grosses neiges seront entre la Seine et la Loire. Hein. C'est là où il y aura les plus grosses quantités. Et pour ce qui est de Paris et du centre, ça sera seulement à partir de la soirée. Hein. Donc on aura le temps de rentrer avant la neige normalement, puisque pour l'instant, c'est aux alentours de 22h qu'il commencera à neiger sur Paris. Ça durera toute la nuit. Donc là aussi, attention, demain matin, on devrait avoir peut-être jusqu'à 5-7 cm de neige et ça tiendra sur des sols gelés. Puis ensuite, cette neige se décalera vers le nord-est. Pendant ce temps-là, dans la moitié sud, ce sera bien de la pluie en pleine et de la neige en montagne. Et puis les températures, c'est le grand écart entre le nord, où ça ne dégèlera pas au nord de la Seine, entre -3 et -1 degré, y compris à Paris, 0 à 3 degrés dans les autres régions de la moitié nord, et puis brutalement, en quelques 100 km, on aura 10 à 16 degrés dans la moitié sud.
Et bien voilà, vous êtes prévenus, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, cet inquiétant piratage informatique aux États-Unis en Floride.
Une usine de traitement de l'eau infiltrée par un hacker. Il était sur le point de transformer cette eau en poison. Un technicien est intervenu juste à temps. Dans l'actualité également, les mystères du Covid long. L'OMS se penche enfin sur la question et puis on réentendra la voix de Jean-Claude Carrière, disparu à 89 ans. Scénariste, écrivain, comment sa rencontre avec Jacques Tati a touché changer.
RTL Matin.
Le pire a été évité de justesse aux États-Unis, en Floride, dans la banlieue de Tampa, où se déroulait ce week-end l'événement sportif de l'année, le fameux Super Bowl. Une usine de traitement de l'eau a été piratée à distance. Le hacker a réussi à infiltrer le système informatique et à modifier les niveaux des produits chimiques. Il y a 15 000 habitants qui dépendent de cette usine et qui donc consomment cette eau. Bonjour Karine Auten.
Bonjour.
Vous êtes aux États-Unis pour RTL, racontez-nous.
Oui, imaginez-vous la scène. Nous sommes vendredi matin dans la salle des opérations d'une petite ville de la région de Tampa Bay en Floride. Là, un technicien voit sur son écran de contrôle la souris bouger toute seule et puis rien. L'incident reste là. Quelques heures plus tard à nouveau, mais là ce qui se passe c'est beaucoup plus grave. L'ordinateur est encore activé à distance et quelqu'un manipule l'équilibre de l'eau. Il arrive à multiplier par 1000 la quantité d'un additif qui sert à équilibrer l'acidité de l'eau. Une manipulation dangereuse puisque ce produit c'est de l'hydroxyde de sodium qui à haute dose devient corrosif. Aussitôt, l'alerte est donnée directement au niveau national, au FBI et à la CIA. Sur place, le shérif sonne l'alerte pour toutes les infrastructures sensibles.
À cause de cette faille de sécurité, nous demandons à toutes les agences gouvernementales dans la zone de Tampa de passer en vue leur système de sécurité et de faire les mises à jour.
Dans ce cas précis, les autorités disent qu'il y aurait eu un nouveau contrôle de l'eau avant qu'elle ne soit déversée dans le réseau. Cela dit, cet épisode est considéré comme sérieux. Un pirate a pu accéder aux commandes d'un réseau d'eau potable. À ce stade, les enquêteurs partent de zéro. Leur première question va être de déterminer si l'attaque a été effectuée depuis les États-Unis ou depuis l'étranger.
Karine Auten, aux États-Unis pour RTL, on voit toutes les questions que cela pose. Est-ce que ça peut être une menace sérieuse dans ce monde hyper connecté? Laura Mauchi vient de poser la question au spécialiste en cybercriminalité Damien Bancal.
Le problème avec cette informatique aujourd'hui, c'est qu'il existe énormément de failles. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que le technicien s'est rendu compte de ce piratage parce que sa souris a bougé. Il est clair que le pirate a pu faire d'autres dégâts. Faire bouger la souris, c'est la partie visible de l'iceberg. Qu'a-t-il fait avant? Une heure avant? Peut-être une semaine avant? Peut-être un an avant? Des attaques informatiques, il n'y en a jamais eu autant. Il faut être très clair, aujourd'hui, le piratage informatique, on peut plus ou moins le mettre à un niveau du terrorisme numérique. Les pirates informatiques, une fois qu'ils peuvent rentrer dans un endroit, ils trouveront tous les moyens pour faire chanter ou juste faire peur.
Damien Bancal, spécialiste en cybercriminalité, avec Laura Mauchi pour RTL.
RTL 8h03, un premier pas pour les victimes du Covid long.
Des mois de souffrance, souvent dans l'incompréhension des proches ou des médecins qui sont dépassés, les symptômes persistants de la maladie ne sont toujours pas reconnus. Premier pas d'abord parce que l'OMS se penche aujourd'hui sur ce phénomène et qu'un texte va être débattu dans les jours qui viennent à l'Assemblée, signé par une députée LREM, Patricia Mirales, elle-même victime du Covid long. Elle est avec Jacques Serret.
J'ai des épanchements au niveau des articulations, au niveau de l'avant-bras gauche où j'ai trois tendinites, une fissuration de l'épaule. J'ai les bras qui me brûlent en permanence et toujours ce sentiment d'être fatiguée. Et je récupère très difficilement des insomnies, la perte d'appétit. Pour le moment, aucun traitement me soulage. Donc faire cette proposition de résolution, c'est déjà de poser un cadre. Nous savons que la Covid peut déclencher ce qu'on appelle le Covid long, c'est-à-dire des symptômes qu'on ne connaissait pas et qui perdurent. Donc, si l'on pose le cadre, alors il faut qu'on prenne en charge toutes les personnes qui décrivent ces mêmes douleurs ou ces mêmes problématiques. Et je vous dis, moi, c'est pas pour moi, parce que je travaille, j'ai une mutuelle, il y a des gens qui sont en demi-salaire, qui ont une mutuelle qui a pas pris certains soins en compte, et ça, c'est pas possible. On peut pas laisser les gens dans cette situation.
Un témoignage recueilli par Jacques Serret. Allons plus loin avec vous, la brigade Sophie Orange, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Alors, combien de personnes comme cette députée qu'on vient d'entendre sont touchées en France plusieurs mois après avoir eu le Covid ?
Alors, entre 10 et 30% des malades, selon les études en France, c'est sûr, cela représente plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Est-ce qu'il y a un profil type ?
La majorité des malades n'a pas été hospitalisée au moment des premiers symptômes, pas de facteur de risque particulier. Leur point commun, une maladie en dents de scie, un jour ça va et le lendemain, ils ne peuvent plus se lever. Fatigue, essoufflement, brouillard cérébral, perte de goût, d'odorat. Les médecins parlent de Covid long lorsque ces difficultés durent au-delà d'un mois. Leur test PCR est négatif, hein, bien sûr, et ces malades ne sont plus contagieux.
Est-ce qu'on a progressé dans la connaissance de ces Covid longs ?
Avec quelques pistes qui se dessinent. La dernière, les hôpitaux de Marseille viennent de publier une étude qui montre que le cerveau des Covid longs ne présente pas de lésions particulières, pas d'hémorragie, mais une baisse d'activité. Comme s'il fonctionnait au ralenti, le cerveau réagit moins bien. C'est donc un résultat objectif, ce n'est pas une maladie psychosomatique.
Est-ce que les médecins sont plus à l'écoute aujourd'hui ?
C'est sûr, ils connaissent davantage la maladie, la prise en charge se précise avec une grande part de rééducation, y compris pour réapprendre à respirer, parce que beaucoup ne savent plus le faire, ils s'essoufflent au moindre effort, sans oublier des activités pour retrouver l'odorat, par exemple, avec au bout l'espoir de guérison. Il y a un an, on est parti de mots-clés J40, J60 sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, on est presque à une reconnaissance de ces Covid longs.
Brigade signée Sophie Orange. Merci Sophie. L'électricité, les repas, les fournitures aussi. Le télétravail a un coût. Il peut aller jusqu'à 174 € par mois par salarié. D'après une étude publiée ce mardi, près d'un tiers des salariés du privé étaient en télétravail complet ou partiel en décembre.
8h06, la neige arrive dans la moitié nord et les premiers services seront les Bretons.
La région s'attend à vivre son plus gros épisode neigeux depuis 1986. Les transports scolaires sont suspendus. Les flocons se décaleront ensuite. Louis Baudin le disait, vers l'est et le Nord et le Pas-de-Calais déclenchent le plan grand froid. Et puis il y a ceux qui auront la neige, le froid et l'eau. 6 départements sont toujours en vigilance crue, comme les Yvelines. Reportage à Villennes-sur-Seine de Sébastien Rouxel.
Là, on rentre dans la lingerie. Et cela fait 3 jours ce matin que le rez-de-chaussée de Jean-Pierre est envahi par l'eau, 15 à 20 cm. Ses affaires sont à l'abri, mais il craint pour sa tuyauterie.
Si jamais il y a du gel sur les tuyauteries, c'est sûr que ça posera un problème, il y aura des dommages. Bah, ça veut dire probablement le chauffage qui ne marche plus ou l'eau qui ne marche plus. Et
plus de chauffage potentiellement, alors que le mercure continue de chuter. On attend jusqu'à moins 7 degrés demain ici et cela pourrait contraindre Jean-Pierre à quitter sa maison.
Il ne faudrait pas que les températures soient très négatives parce que la Seine se transformerait en un lac de glace, et ce qui effectivement nous amènerait à devoir quitter la maison parce qu'on ne pourrait plus accéder ni avec des bottes ni bien sûr avec le bateau.
Le froid, les crues, cela commence à faire beaucoup, mais il garde le sourire.
Il faut toujours garder le moral. En plus, quand on a fait le choix de vivre sur une île, il faut aussi accepter les inconvénients. Optimisme et moral.
Une bonne nouvelle tout de même, le niveau de la Seine s'est stabilisé hier, mais les équipes de la ville restent mobilisées face au risque de chute de neige cet après-midi.
Sébastien Rouxel, et puis aujourd'hui c'est le niveau de la Charente qui devrait commencer à baisser.
Un enfant de 4 ans oublié dans un bus, il n'avait pas réussi à détacher sa ceinture. Colère des parents.
Jeudi soir, il nous a dit qu'il avait pleuré quand le bus était parti. C'est incroyable qu'on oublie un enfant dans un bus.
On vous explique tout cela dans un instant sur RTL. Il est 8h08.
RTL Matin.
8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Dans le Calvados, le petit Milan, 4 ans, a passé plusieurs heures tout seul, oublié dans un bus.
Et le pire, Frédéric Veil, c'est que ses parents l'ont appris presque par hasard.
Oui, la maman du petit Milan ne décolère pas, parce qu'en fait, elle n'a appris cette mésaventure que le lendemain soir.
Oui, c'est ça, je l'ai appris vendredi soir. En fait, en allant le chercher, la maîtresse me demande, eh bien, comment a dormi Milan avec ce qui s'est passé hier. Et c'est comme ça que j'apprends, en fait, qu'il avait été oublié dans le bus et que le chauffeur s'en est aperçu au moment où il faisait la désinfection de son bus.
Et votre fils ne vous avait rien dit ?
Eh bien, en fait, jeudi soir, il nous a dit qu'il avait pleuré quand le bus était parti. On l'a questionné, mais on n'a vraiment pas compris ce qu'il voulait nous dire en disant « j'ai pleuré quand le bus est parti ».
Au final, Milan a donc passé près de 3 heures tout seul enfermé dans le bus avant que le chauffeur le découvre et le ramène finalement à l'école. Et s'il est resté dans ce bus 3 heures, c'est que ce petit bonhomme n'a pas réussi à détacher sa ceinture.
C'est incroyable qu'on oublie un enfant dans un bus. Alors, aujourd'hui, oui, plus ou moins, ils nous ont présenté des excuses. Du coup, même si une sanction vient à être prononcée envers l'accompagnatrice ou le chauffeur du bus, ou même un avertissement ou quoi, on n'a plus confiance, on ne veut plus qu'ils prennent le bus.
Et les parents du petit Milan sont même allés plus loin, puisqu'ils ont, dès samedi, déposé une main courante à la gendarmerie.
Frédéric Veil, à retenir dans l'actualité de ce mardi, le second procès en destitution de Donald Trump aux États-Unis. qui s'ouvre aujourd'hui au Sénat. En l'absence du principal intéressé, l'ancien président est poursuivi pour incitation à l'insurrection. Un mois après l'invasion du Capitole, son acquittement fait peu de doute. En Birmanie, malgré les menaces de représailles, les manifestants ne désarment pas. Nouvelle journée de violence, plus d'une semaine après le coup d'état militaire. Dans la capitale, les rassemblements ont été dispersés avec des canons en haut. La police aurait aussi tiré sur la foule avec des balles en caoutchouc, d'après des témoins.
8h11, le projet de loi résultant de la Convention citoyenne arrive demain en Conseil des ministres.
C'était un engagement d'Emmanuel Macron, rappelez-vous, après les Gilets jaunes, demandait à des Français tirés au sort de plancher sur des propositions pour le climat. Il en est ressorti 149. Le chef de l'État en a écarté 3. Et que reste-t-il au terme de ces mois de discussion, de bras de fer même parfois? Eh bien, pas mal de mécontentement et de frustration, Vincent Derosier.
Oui, et à en croire plusieurs parlementaires, les débats pourraient même fissurer la majorité, car cette loi climat touche à tout. Éducation, logement, finances, collectivités locales, chacun va défendre son petit sujet, redoute un député, et ça va être le bazar. D'ailleurs, dans la majorité, on a déjà identifié plusieurs sujets dits glypho. Comprenez, des sujets aussi explosifs que celui de l'interdiction ratée du glyphosate. Parmi eux, il y a l'écocide, l'obligation de rénover son logement ou les amendements qui vont s'attaquer aux compagnies aériennes Ryanair ou EasyJet. Et puis, les pressions extérieures vont être très fortes sur ce texte. Nicolas Hulot a déjà dit ce qu'il en pensait. Les ONG vont pousser leur sujet. Et le député Mathieu Orphelin dénonce déjà un texte beaucoup trop timide.
C'est une loi sympathique qui n'est pas du tout assez ambitieuse. Si au final la loi ne permet pas de remplir l'objectif qui était moins 40% de gaz à effet de serre en 2030, on passe à côté du sujet.
Alors au sommet de l'État, on prépare la riposte en vantant une loi historique. Car pour Emmanuel Macron, ce texte, c'est le dernier espoir de verdir son bilan avant l'élection présidentielle.
Vincent Derosier.
Vous avez forcément en tête Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac ou dans Le Retour de Martin Guerre. Et bien derrière ces chefs-d'œuvre du cinéma français, il y avait une plume.
Celle de Jean-Claude Carrière qui vient de s'éteindre à 89 ans. Il avait signé une soixantaine de scénarios, des dizaines de livres aussi, mais aussi des textes de chansons pour Juliette Gréco, Jeanne Moreau notamment. Et c'est avec Jacques Tati qu'il avait fait ses tout premiers pas de scénariste en 1957. Première rencontre avec le créateur de Monsieur Hulot. Écoutez cette archive RTL, c'était en 2019.
La première fois où j'ai rencontré Tati, il m'a invité à déjeuner. On est sorti dans la rue, il pleuvait. Et je lui ai dit, c'est drôle, quand il pleut, les passants accélèrent et les voitures ralentissent.
Oui.
Il m'a regardé, il m'a dit, vous avez remarqué ça, vous? C'est-à-dire oui. Que travailler consistait souvent à s'asseoir à la terrasse d'un café et à se dire, qu'est-ce qui pourrait arriver à celui-ci ou à celui-là?
Jean-Claude Carrière qui avait commencé son travail de scénariste avec Jacques Tati. En football, l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 aujourd'hui en Coupe de France. 3 rencontres à suivre ce soir. Lorient, Paris, FC, Reims, Valenciennes à 18h30 et puis à 21h, Lyon qui affronte l'AC Ajaccio.
L'image du jour.
À l'heure où les températures polaires s'abattent sur une partie de la France, ce panneau d'affichage de la ville de Lyon hier qui avait visiblement pris froid puisqu'il indiquait moins 58 degrés. Peut-être encore un piratage. En tout cas, ça doit être résolu à l'heure qu'il est.
Mais il ne s'était pas trompé de fête. Hein. C'était la Sainte-Jacqueline.
Exactement. -58 degrés.
C'était le journal de Jérôme Florin.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Les fake news tout de suite avec Jean-Mathieu Pernin. Bonjour Jean-Mathieu.
Bonjour.
Aujourd'hui, la vaccination d'Olivier Véran devant les caméras a suscité un grand nombre d'intox, presque un feu d'artifice.
Oui, c'est ça, puisque Yves, avant tout, il y a le corps, hein, bien sûr. Quand Olivier Véran déboutonne sa chemise devant les caméras, joue à cache-téton et gonfle son biceps, c'était l'instant coquin de la campagne vaccinale. À un point tel que certains doutaient que ce soit son vrai corps. Et oui, grâce à un procédé technologique, la tête du ministre, le corps d'un autre, mais c'était quelques avis minoritaires. En fait, rapidement sur les réseaux sociaux, on pouvait lire des interrogations des internautes concernant un certain privilège qu'aurait eu Olivier Véran. Beaucoup lui reprochent de passer avant tout le monde, alors que les rendez-vous sont difficiles à obtenir. Pourquoi lui et pas un autre? Sur Twitter, le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud, écrit « L'exemplarité, c'est d'attendre son tour », disait Olivier Véran il y a un mois. Mais pour sa com, il change d'avis. Pendant ce temps, 1,2% seulement des habitants de Seine-Saint-Denis ont été vaccinés. Des personnes prioritaires n'ont pas de rendez-vous pour un mois. Pathétique. Alors bon, s'il est vrai que le ministre de la Santé a toujours dit, et notamment au journal de 20h de France 2 le 29 décembre, qu'il attendrait son tour, le vaccin AstraZeneca lui permet cette injection, hein, puisqu'il est réservé en priorité aux aux soignants de moins de 60 ans, Véran ayant 40 ans et neurologue de métier, le ministre y a droit. Pourtant, d'après son cabinet consulté par le JDD, c'est davantage le fait de ses déplacements dans les établissements de santé qui oblige à cette injection.
Alors, même fake news, en fait, que Roselyne Bachelot en 2009.
Et oui, c'est ça qui est assez étonnant. Le 12 novembre 2009, Roselyne Bachelot se fait vacciner devant les caméras dans un gymnase du 14e arrondissement de Paris. Un geste à l'époque pour inciter les Français à faire de même afin de se protéger du virus H1N1. On découvre alors que le scepticisme des Français contre les vaccins peut se transformer en doute complotiste, hein, puisque l'on voit se développer l'idée que Roselyne Bachelot n'a pas reçu de sérum vaccinal, mais du sérum physiologique, hein, pour ne pas prendre de risques. On parle aussi de fausse aiguille. 12 ans plus tard, autre ministre de la Santé, autre virus, même théorie. Certains se demandent si l'aiguille enfoncée dans l'épaule d'Olivier Véran n'est pas rétractable. Nombreux sont ceux à faire remarquer que le ministre de la Santé s'est fait vacciner avec l'AstraZeneca, vaccin plus traditionnel à deux doses que la nouvelle technologie ARN de Pfizer-BioNTech. Comme dit plus tôt, ce n'est pas un choix d'Olivier Véran. AstraZeneca est recommandé aux moins de 60 ans en priorité au personnel soignant. Les ministres passent les complotistes.
Bon, est-ce utile la vaccination devant les caméras pour dissiper les doutes?
Alors Olivier Véran, c'est le premier ministre français à le faire, hein, devant les caméras concernant le coronavirus. Benjamin Netanyahou l'a fait en décembre. Même chose pour Joe Biden ou sa vice-présidente Kamala Harris. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que ce genre de communication est à double tranchant, puisque que d'après les enquêtes d'opinion, les publics les plus méfiants face au vaccin sont aussi les plus sceptiques face aux élites et notamment face aux élites politiques. Bref, le variant de la défiance est toujours robuste.
Bon, l'information de la matinée, c'est que le corps d'Olivier Véran est bien le corps d'Olivier Véran.
Tout à fait, il est coquin.
Merci beaucoup Jean-Mathieu, à demain matin. Dans un instant, Michel Simès va nous présenter les toutes nouvelles méthodes de rééducation olfactive. Vous savez qu'après le coronavirus, les chercheurs en neurosciences sont de plus en plus confrontés à des pertes d'odorat. Vous allez voir, c'est passionnant.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Et bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous attardez sur l'un des symptômes du Covid, l'anosmie, c'est-à-dire la perte de l'odorat. C'est un sens que l'on peut rééduquer.
Oui. Tout n'est pas perdu pour les victimes du coronavirus qui s'aperçoivent du jour au lendemain qu'elles ne peuvent plus faire la différence entre une tasse de café et un bol de soupe. En général, cette anosmie est passagère et la bonne nouvelle, c'est qu'elle témoigne d'une forme plutôt légère de la maladie. Il faut 2 ou 3 semaines pour que les choses rentrent dans l'ordre et que votre nez retrouve toutes ses capacités olfactives. Mais parfois, ça dure plus longtemps et il faut en passer par des séances de rééducation. L'odorat, c'est comme tout, quand il a du mal à fonctionner, il faut l'aider un peu et ça passe par de l'entraînement.
Comment se passent ces séances?
Alors, elles ont été mises au point par des neuroscientifiques. En pratique, le patient va 2 fois par jour se livrer à des séances de flairage de différentes odeurs. On choisit des odeurs très différentes, hein, oui. La rose, l'eucalyptus, le citron, le clou de girofle, auxquels on peut rajouter la graine de café, la menthe poivrée. Toutes ces odeurs balaient l'ensemble du champ olfactif.
Et comment se les procure-t-on ces odeurs?
Il faut utiliser des flacons d'huiles essentielles. Le protocole consiste à flairer pendant 10 secondes chacune de ces odeurs. Entre 2 odeurs, bien sûr, on observe une pause de 10 secondes. Il est impératif de faire les choses à l'aveugle, c'est-à-dire de ne pas regarder préalablement l'étiquette du flacon pour savoir ce qu'il contient avant d'en flairer le contenu. Sinon, vous êtes préparé mentalement à ressentir une odeur particulière et ça fausse le résultat.
Combien de temps sont censées durer ces séances de rééducation?
Alors, faut leur consacrer 5 minutes 2 fois par jour. On peut faire ça le matin et le soir. Après, pour chaque flacon, il y a 2 possibilités.
Oui.
Soit vous percevez une odeur, et dans ce cas, vous mettez le flacon sur votre droite. Soit vous ne percevez rien et vous mettez le flacon sur votre gauche.
D'accord.
Quand vous reconnaissez une odeur, vous vérifiez sur l'étiquette que vous ne vous êtes pas trompé et vous recommencez l'exercice. Vous flairez de nouveau le contenu du flacon pour envoyer un signal à votre cerveau et faire fonctionner votre mémoire qui va retenir que cette odeur si particulière que vous avez identifiée, c'est bien celle de la rose ou du citron ou du clou de girofle. Les expériences menées sur certains patients ont montré que ce protocole se traduisait par une augmentation du volume de matière grise de l'hippocampe et du thalamus, 2 aires cérébrales qui impliquent la mémoire et l'attention.
Combien de séances faut-il endurer pour avoir de tels résultats?
Actuellement, on est sur des protocoles de 12 semaines. Alors évidemment, plus tôt vous commencez, mieux c'est. Et je vous recommande, si vous êtes concerné, d'en dire un mot à votre médecin généraliste ou mieux, à votre ORL.
Merci Michel et à demain.
À demain.
Il est 8h21, merci d'écouter RTL. Dans un instant, nous vous parlerons de la journée pour un Internet plus sûr. C'est aujourd'hui que le gouvernement lance une grande campagne de prévention, notamment pour protéger nos enfants des contenus pornographiques. Et pour en débattre, nous serons avec le pédopsychiatre Serge Effez et Grégory Dorcel, qui est producteur de films pour adultes consentants. A tout de suite.
RTL, toujours avec vous. RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
C'est une des questions que nous nous posons ce matin sur RTL. Comment mieux protéger nos enfants, tout simplement, contre la pornographie? Bonjour Serge Effez.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, directeur de l'unité de thérapie familiale à la Pitié-Salpêtrière. Je salue aussi Grégory Dorcel. Bonjour Grégory Dorcel.
Bonjour.
Vous dirigez la société de production Dorcel et ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'un et l'autre notre invitation. Nous sommes donc en ce mardi 9 février, en pleine journée, pour un Internet plus sûr. L'idée est de protéger davantage et plus efficacement, en fait, nos enfants des contenus choquants, voire enfonçants, auxquels ils peuvent accéder avec une simplicité elle-même enfantine. Serge Effez, je vais commencer avec vous. Avez-vous des chiffres, des statistiques sur l'exposition de nos enfants? Est-ce qu'en 2021, l'accès à la pornographie vous semble à peu près sécurisé?
Oh, pour les enfants, non, pas du tout. Pas du tout. Énormément d'enfants, j'aurais du mal à vous donner des chiffres exacts, on parle de 20, 30, parfois même jusqu'à 40% d'enfants ont accès à des contenus Internet qui sont extrêmement traumatisants pour eux.
Traumatisant, c'est le terme que vous employez?
Oui, vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de l'inceste, des violences faites aux enfants, de ce type de traumatisme, mais pour moi, le porno fait partie de ça. C'est une effraction, c'est une vraie effraction psychique chez des enfants qui ne sont pas préparés à voir de telles images, qui ne les comprennent pas et qui n'en voient que la violence. Et c'est un accès à la sexualité par le traumatisme, pour eux, par une espèce d'effraction psychique. Et alors, je ne vais pas vous dire que tous vont en être malades par la suite, ça serait exagéré, mais pour un certain nombre d'entre eux, ça va créer des véritables phobies et une véritable peur, une véritable panique par rapport à leur corps et par rapport à la sexualité.
Si je vous suis bien, on peut parler de trauma, de traumatisme au sens premier du terme.
Ah, au sens premier du terme, traumatisme, c'est une effraction dans le corps, une effraction psychique. Eh bien, ce type d'images, qui encore une fois sont très crues et parfois très violentes, qui dépassent les possibilités de métabolisation d'un enfant, elles créent un traumatisme.
Alors, le gouvernement dévoile ce matin un spot télévisé et met en ligne un site internet www.jeprotegemonenfant.gouv.fr. Grégory Dorcel, votre nom est associé à une grande société de production et de réalisation de films à destination des adultes. Vous avez pris position justement en faveur de la protection de nos enfants. Comment vous engagez-vous ?
Écoutez, d'un côté, effectivement, on a pris cette position depuis un bon bout de temps et depuis que sur le web, effectivement, les mineurs ne sont plus protégés et on milite pour un retour et une protection normale des mineurs. Comment nous sommes tout d'abord signataires du protocole d'engagement pour la prévention à l'exposition des mineurs au contenu pornographique. Nous battons également et nous engageons avec des associations de protection de l'enfance comme l'Open qui font un travail remarquable pour essayer de faire avancer les choses et revenir à une protection des mineurs efficace sur le web. D'autre part, au travers le geste, l'association des leaders de services en ligne, nous avons participé au financement de cette plateforme et on travaille très activement au-delà de l'information qui est effectivement nécessaire et tout à fait louable. Au-delà de ça, on travaille surtout à la mise en place de solutions effectives sur le web qui permettent de rétablir une protection des mineurs sur l'ensemble des sites qui diffusent de la pornographie.
Grégory Dorcel, on travaille à des solutions effectives, ça veut dire que pour l'instant vous ne les avez pas.
Alors si c'est, nous les avons, elles existent. Maintenant, il faut effectivement que les pouvoirs publics, et c'est le cas, puisqu'une loi a été votée il y a quelques mois et qui va permettre ceci prochainement, elle va permettre de faire bloquer les sites qui décident de ne pas protéger les mineurs. Donc il a fallu effectivement passer par un véhicule législatif, il a fallu faire avancer la loi et forcément il va falloir avoir aussi des moyens un peu contraignants, mettre en place des moyens un peu contraignants pour les éditeurs de sites qui souvent sont complètement hors de France et donc ne sont pas sous le coup des juridictions françaises. Il a fallu trouver des moyens pour pouvoir les contraindre à respecter ce qui est finalement le code pénal, hein, parce que je vous rappelle qu'en France, la loi est déjà existante et elle punit 3 ans d'emprisonnement ceux qui diffusent un message pornographique aux mineurs.
Sauf que pour l'instant, il suffit de mettre une fausse date de naissance avant d'entrer sur un site ou un autre, hein, on est bien d'accord. Ou de répondre oui ou non.
Pour certains sites, effectivement, qui décident de ne pas protéger efficacement, c'est pas le cas de Dorcel. L'ensemble de nos sites protège depuis très longtemps les mineurs. Et
vous pouvez l'expliquer en quelques mots à nos auditeurs, s'il vous plaît, comment ça fonctionne?
Oui, tout à fait. Bon, il y a trois grands moyens possibles pour protéger effectivement les mineurs. Soit vous passez par des services qui sont offerts par vos fournisseurs d'accès en ligne, votre opérateur téléphonique. Soit vous passez par des solutions qui sont des solutions indépendantes de ce qu'on appelle de tiers vérificateurs, des sociétés qui sont dédiées à ceci et qui fonctionnent également et qui vérifient votre majorité, hein, comme pour la vente d'alcool en ligne, comme pour d'autres qui sont très répandues dans le monde. Et enfin, vous avez également les cartes de paiement. Certaines cartes de paiement vous permettent effectivement de contrôler si la personne qui se connecte est bien détenteur d'une carte. Et pour être détenteur de ces cartes, vous ne pouvez être que majeur. Voilà. Donc il y a trois grands moyens qui le permettent, qui sont effectifs. Il y a de nombreux sites comme les nôtres qui opèrent déjà cette protection des mineurs. Maintenant, par contre, il faut effectivement veiller à ce que l'ensemble des sites s'y oblige. Et du coup, il faut de temps en temps taper un peu du poing sur la table pour obliger tout le monde à respecter ce qui est le code pénal.
Serge Effez, je reviens vers vous. Comment peut-on aujourd'hui, selon vous, renforcer, je dirais, la protection de nos enfants par rapport à cette irruption de la pornographie ?
Il y a effectivement ce qu'on peut faire sur le plan juridique, il y a aussi ce qu'on peut faire sur le plan de la prévention. Oui. C'est-à-dire que on ne parle pas assez aux jeunes. Alors il faut aussi différencier évidemment les enfants, c'est pas pareil de regarder des images pornographiques à 7 ou 8 ans ou de les regarder à 14, 15 ans, bien évidemment, même s'il s'agit de mineurs. Mais je dis protéger les enfants, c'est les prévenir à l'avance que ces images existent, qui peuvent tomber dessus et leur expliquer ce que sont ces images, c'est-à-dire que c'est du comme-si, que c'est du jeu, que ce sont des acteurs, que c'est pas la vraie vie, que la vraie sexualité, que les vrais corps, ils ne sont pas comme ça, qu'ils ne fonctionnent pas comme ça, mais leur donner des signaux d'alerte, si vous voulez, sans trop détailler les choses, qu'ils s'attendent peut-être un jour ou l'autre, chez un cousin, chez un ami, etc., à tomber sur de telles images et que ça leur tombe pas sur la tête comme une enclume, si
sans
vous voulez.
Sans crainte de susciter une curiosité.
Non, c'est plutôt la curiosité, ils l'ont, parce qu'ils vont en parler, évidemment, entre copains, à l'école, assez tôt. Savent qu'il y a du porno, ils savent que ça circule. Ils sont pas innocents, bien évidemment. Mais je crois qu'il faut être pédagogique par rapport au contenu de ces images. Qu'est-ce qu'elles véhiculent comme image des hommes et des femmes. Oui. Et que c'est aussi une très bonne façon pour eux de parler de ce qu'est la sexualité, de ce qu'est la sexualité en dehors du porno, de ce que sont les rapports entre les hommes et les femmes en dehors du porno. Et ça peut être fait extrêmement tôt avec les enfants.
Vous pensez que l'école a un rôle à jouer dans tout ça ?
L'école aussi, bien sûr, mais les parents, bien évidemment, tout le monde a un rôle à jouer. Alors c'est vrai qu'on délègue beaucoup à l'école un petit peu tout aujourd'hui, apprendre la citoyenneté, les valeurs, les traditions, tout ce qu'on veut.
Vous savez que c'est tabou pour les parents, Serge Effez, mieux que quiconque, que c'est très délicat pour y aller.
Mais c'est pour ça qu'il faut aussi peut-être éduquer les parents. Il ne s'agit pas encore une fois de faire effraction dans les valeurs qu'ont les parents, mais qui jouent un rôle pédagogique en prévenant les enfants des dangers qu'ils sont amenés à courir. On prévient les enfants qu'il ne faut pas traverser en dehors des clous ou en dehors des feux rouges, que c'est dangereux. Eh bien, on peut les prévenir aussi sur ces images qui circulent.
Alors, je redonne les sites, hein, www.jeprotegemonenfant.gouv.fr. Merci beaucoup, Serge Effez. Merci, Grégory Dorcel, d'avoir pris la parole pour aborder ces questions tout à fait sérieuses ce matin sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, on va retrouver Louis Baudin pour les prévisions à 7 jours de notre météo, à commencer par celle d'aujourd'hui, parce que vous savez qu'elles sont en matière de neige assez impressionnante. À tout de suite. La météo à 7 jours, à 8h33 sur RTL, elle est signée Louis Baudin. On commence d'abord par les premiers flocons qui sont très nettement en train d'arriver sur le Sud-Bretagne.
Voilà, vous avez raison, Sud-Finistère, Morbihan, ça y est, ça commence à neiger. Ça va durer toute la journée, donc sur ces départements bretons, d'où les 10 à 15 cm attendus éventuellement fin de journée. Ensuite, cette perturbation neigeuse, en tout cas pour ce qui est de la partie nord, va arriver cet après-midi sur la Normandie, le Val-de-Loire, et ça sera sur l'Île-de-France et la région centre seulement en soirée, deuxième partie de soirée même, à partir de 20h ou 22h il commencera à neiger donc sur la région parisienne, sur le centre, et puis durant la nuit ça durera sur ces régions du centre et de la région parisienne, ça commencera à se calmer sur la Bretagne et ça gagnera les régions de l'Est durant la nuit avec là aussi quelques centimètres attendus de la Bourgogne, Lorraine, Alsace ou encore Franche-Comté, même chose sur la région Rhône-Alpes. Plus au sud, la même perturbation donnera bien de la pluie en plaine et de la neige en montagne sur les Pyrénées, les Alpes où il va énormément neiger à partir de la nuit
prochaine. Il n'y a que la Méditerranée qui sera épargnée. Et l'extrême nord également. Au nord de la Seine, on restera un petit peu à l'écart. Enfin, plutôt entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, on restera à l'écart de cette dégradation. Alors ensuite,
il y a comme un bout de télésiège là, qui n'est pas tout à fait passé.
Exactement. Oui, avec demain de la neige qui persistera encore près des frontières de l'Est. Ailleurs, ça se calmera. Il fera très froid demain matin avec cette petite couche de neige. On descendra probablement jusqu'à moins 10 degrés parfois dans l'extrême nord. Ça sera toujours plus doux dans le sud. Et puis ensuite, pour les jours suivants, eh bien, on va retrouver des conditions anticycloniques avec de l'air plus sec, plus froid. Et ça devrait nous accompagner jusqu'au week-end. Après, je m'abstiens parce que là, il y a toujours cette lutte entre l'air froid et l'air doux. Et puis, de temps en temps, c'est l'air doux qui gagne. De temps en temps, c'est l'air froid. Donc, je ne dis rien. On en reparle demain.
Mais vous avez le droit parfois de ne rien dire ou en tout cas d'exprimer des doutes. Merci infiniment, Louis Bonnet.
RTL, vous êtes comme ça.
D'une toute petite vallée vosgienne à la planète Mars, il n'y a qu'un pas. C'est le voyage que nous vous proposons ce matin avec Samuel Goldschmidt. Bonjour Samuel.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le bouclier thermique qui va protéger la première capsule à ramener des échantillons de roches martiennes sur Terre vient en effet de la Croix aux Mines. C'est un village de 500 habitants dans les Vosges avec une très longue tradition textile.
Un village bien connu donc de la NASA mais aussi d'Arianespace ou du constructeur américain Northrop qui a fabriqué quand même les modules lunaires des missions Apollo. Tout ça parce qu'il y a une filature à la Croix aux Mines depuis 1835. Dans une filature, on fabrique du fil. Sauf qu'ici, on a poussé le bouchon largement plus loin. Pas de coton ou de laine sur les machines de Laurent Chéniaud, gérant et principal actionnaire de la filature.
On est sur des fibres synthétiques. On a des aramides, on a des métaramides, du Kevlar, du polyester, des polyamides, du carbone, des préox, des inox. On va souvent faire du co-développement avec nos clients. Le fil qu'on livre pour la NASA, c'est pas le même que celui qu'on livre pour Ariane.
C'est de la haute couture pour de la haute technologie. Ils sont les seuls en France à savoir faire ça. Ils ont 3 ou 4 concurrents dans le monde et ils savent donc filer le carbone. C'est Christophe Genet qui est responsable de l'atelier composite.
On a des machines qui font du fil simple et après on a d'autres machines qui nous permettent de l'assembler en plusieurs brins pour différentes résistances et différentes applications.
Là, les bobines qu'on voit là, c'est du carbone.
Là, c'est du carbone avec un mélange de produits dedans, oui.
C'est sa couleur naturelle, on va dire.
Voilà, le carbone est noir et quand on mélange avec plusieurs autres produits, alors des fois on a des gris plus soutenus, et là ça fait un peu vert parce que le produit qu'on mélange avec est jaune. Celui-là, c'est pour des joints d'étanchéité.
Et on travaille en combinaison intégrale avec un casque climatisé parce que figurez-vous que les fibres de carbone, ça gratte, ça démange et il faut malgré tout donner dans la perfection, comme l'explique Elodie Gerber.
Oui, on a la pression. Il faut faire ça bien. On le fait pour tous les clients, mais oui, la NASA, ça donne une pression un petit peu plus haute quand même.
Pour la NASA, plusieurs tonnes d'un fil secret ont été fabriquées, 11 000 bobines déjà parties aux États-Unis. Laurent Chéniaud prévient, ils ne serviront pas tout de suite.
2031, notre matériau, il est destiné en fait à venir protéger tous les échantillons qui ont été collectés sur Mars. Donc c'est protéger en fait finalement l'espèce de capsule qui va revenir sur Terre.
Une seule entreprise capable de faire cela en France. Mais du coup Samuel, comment trouve-t-on le personnel pour quelque chose de si rare?
Alors ça c'est vraiment le problème ou le secret ou l'atout, en tout cas la préoccupation de l'entreprise. Fabien Thiberguin est le directeur de l'usine.
Travailler chez Sharp, ça ne s'apprend nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'école. Et même celui qui aurait fait une école textile ne pourrait pas venir travailler, s'adapter facilement et rapidement chez nous, puisque nos machines sont spécifiques. La plupart n'existent pas dans le commerce. Les temps de formation sont très longs. On a beaucoup de salariés qui ont fait carrière chez nous, c'est-à-dire qui sont rentrés très jeunes, qui font 40 ans, voire même plus dans l'usine. Donc c'est très important que les anciens puissent former, accueillir les nouveaux.
Et c'est le cas de Christophe Genet, qui ne s'attendait pas du tout à filer du carbone, même s'il a grandi à la Croix aux Mines.
Je connaissais très bien l'entreprise avant de rentrer, mais sinon non, j'ai des formations de cuisine et de pâtisserie à la base. C'est les aléas de la vie, je me suis retrouvé au chômage, l'entreprise embauchée, je suis rentré en pensant que ce serait que provisoirement, et puis après ça m'a plu, j'ai eu des possibilités d'évolution, voilà, je suis toujours là.
C'est une sorte de trésor du patrimoine industriel, cette entreprise à la fois totalement futuriste, capable de fournir l'aérospatiale, comme le secteur des kimonos traditionnels au Japon, en fibres synthétiques imitant parfaitement la soie, et tous ces fils passent sur des machines qui ont parfois 60 ans et qui sont veillées comme des trésors. Les machines modernes sont incapables de fournir le niveau de précision demandé pour ces fils du futur.
Merci Samuel Goldschmidt, on vous retrouve bien entendu en podcast sur le site rtl.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Lune.
Il est 8h39, ce matin Isabelle Choquet, nous partons en Afrique à la rencontre de ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui en fait deviennent des parias.
Je vis comme une pestiférée, voilà ce que dit Patience dans le magazine Cosette. Patience vit au Ghana, elle a 35 ans, elle est institutrice, mariée depuis 7 ans mais... pas de bébé. Pour ses proches, pas de doute, c'est parce qu'elle a le mauvais œil. À l'école, les parents d'élèves ne la laissent pas toucher leurs enfants. Ils ont peur qu'elle leur transmette sa malédiction, comme ils disent. Patience a changé plusieurs fois d'école, mais à chaque rentrée, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Peu à peu, sa vie sociale s'est rétrécie. Elle ne se rend même plus aux réunions de famille. Ras-le-bol qu'on lui pose toujours la même question. Et alors, t'as combien d'enfants maintenant ? Elle a renoncé aussi à se rendre à l'église. Si elle priait davantage, elle serait déjà mère. Voilà ce que lui dit le prêtre.
Bien sûr.
Elle avait bien quelques amis qui acceptaient de la voir, mais là c'est elle qui a coupé les ponts. Elles ne peuvent pas s'empêcher de parler de leurs enfants. Des femmes comme Patience, il y en a énormément en Afrique. Alors c'est vrai, le taux de fécondité est très élevé, 4,7 enfants par femme, mais le taux d'infertilité est aussi le plus élevé de la planète. 30% en Afrique de l'Est, 42% en Afrique de l'Ouest. En cause, les maladies sexuellement transmissibles, mal soignées ou pas soignées du tout. Il y a aussi les avortements sauvages et la tuberculose. À l'arrivée, les hommes et les femmes sont touchés à égalité. Mais ce sont toujours les femmes qu'on accuse. Certains hommes refusent même de se faire tester, remarque un gynécologue. Ils estiment que ça ne peut pas venir d'eux. Le médecin passe beaucoup de temps à expliquer que l'infécondité n'a rien à voir avec les performances sexuelles. Une Afrique infertile donc, mais une Afrique toujours très croyante. Or, donner la vie, c'est un commandement divin, l'un des piliers du mariage. Alors les femmes stériles sont répudiées, stigmatisées. C'est ce qui est arrivé à Amulène, une Ougandaise de 50 ans. Je travaillais avec mon mari, mais il a revendu nos biens pour épouser quelqu'un d'autre. Il m'a juste laissé une hutte. Elle n'a aucune utilité, voilà ce qu'il a dit quand il l'a renié en public. Au Ghana, Salvation se souvient d'une seule année heureuse, sa première année de mariage. Après, dit-elle, mon époux me jetait des objets au visage en m'accusant d'être une sorcière. Avec sa mère, ils m'ont torturée pendant 4 ans et puis ils m'ont jetée à la rue. Même calvaire pour Sarah, son mari l'accuse de prendre des contraceptifs dans son dos et ses voisins la soupçonnent d'aimer les femmes, ce qui est interdit au Ghana. Désespérées, les femmes se tournent facilement vers le sorcier pour se libérer du mauvais sort. Mais le remède est souvent pire que le mal. Pour Sarah, le traitement consistait surtout à avoir des rapports sexuels avec le guérisseur. Il lui a ensuite extorqué de l'argent en la menaçant de dire à tout le monde qu'elle était infertile. La vraie solution, bien sûr, c'est la procréation médicalement assistée, mais il existe très peu de centres spécialisés, 14 seulement dans toute l'Afrique. En plus, c'est très cher et jamais pris en charge. Pour accéder à la PMA, certains couples vendent leurs terres, leurs maisons ou leur commerce pour un résultat pas toujours garanti. Des solutions moins chères sont quand même en train de voir le jour, mais il faudrait aussi changer les mentalités, et ça c'est ce que tente la fondation Merck, avec un programme pour aider les femmes infécondes à monter leur micro-entreprise. C'est à la fois un pas vers l'indépendance et une façon de montrer qu'une femme peut être autre chose qu'une mère. Femmes stériles, la chasse aux sorcières, c'est un reportage complet à lire dans Cosette ce mois-ci.
Et c'était passionnant comme chaque jour, merci infiniment, à demain matin.
À demain. Choquet.
Nous allons retrouver Laurent Gérard, son équipe au grand complet, dans un instant.
RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Et alors là, quand je dis bande au grand complet,
on est tous là.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. De nombreuses enquêtes d'opinion montrent que le moral des jeunes est au plus bas. C'est pourquoi, selon la presse, le président de la République aurait demandé à Jean Castex de s'adresser plus directement à notre jeunesse pour lui redonner confiance. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Ah oui, c'est bien vous.
Oui. Salut les copains et salut les copines. Est-ce que ça boum ? Est-ce que ça pulse ou est-ce que ça gaze ?
Bah, disons les trois. Vous avez donc été chargé de vous occuper personnellement du moral de notre jeunesse. Comment comptez-vous vous y prendre ?
En responsabilité. En responsabilité, j'ai embauché un jeune.
Ah bah voilà une bonne idée. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Oui. Il m'a dit... qu'il avait le seum et qu'il était au bout de sa vie. Ce qui veut dire qu'il a le moral dans les Clarks, dans les Kickers et parfois dans les Patogas.
D'accord, ça c'est le constat. Et il vous a expliqué pourquoi ?
Je l'ai compris tout seul. Pas de surprise partie. Oui. Pas de hula hoop. Impossible de compter fleurettes au restaurant. 3 francs 6 sous pour s'acheter un blouson, un paquet de gauloises ou mettre du mélange dans sa mobilette.
C'est à peu près ça, en effet. Qu'est-ce que vous lui avez répondu, alors ?
Je lui ai parlé de ma grande opération, un jeune, une solution. Vous vous souvenez ?
Ah bah, bien sûr, oui. Il a réagi comment ?
Il m'a dit, je cite, j'ai noté, attendez, quelque part oui. où je l'ai mis, ah voilà. Mm. What the fuck? Bouffon, va manger tes morts.
Aïe, 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 aïe.
Ce qu'on peut traduire, je crois pas, ce n'est pas rudement batte.
Eh ben c'est ça.
C'est pourquoi, en responsabilité, j'ai décidé de lancer un nouveau plan pour faire rire notre jeunesse. Un nouveau plan que j'ai appelé un jeune à carambar.
Ah.
Alors, comme disent nos jeunes d'aujourd'hui, en voiture Simone, c'est parti mon kiki.
Depuis le début de la pandémie de Covid, les spots radio officiels anti-Covid se sont multipliés devant la lassitude des auditeurs. Des personnalités ont accepté de prêter leur voix pour une nouvelle campagne plus mobilisatrice. Là là. On commence avec le spot de Gérard Depardieu.
Bon, c'est un haut. C'est où ce que je dois dire? Ah oui, d'accord. Allez, vite, hein, j'ai pas que ça à foutre. Hein. J'ai deux films à tourner ce matin et j'ai déjà la dalle. Bon, t'es prêt? Remets-moi le bruit qui énerve, là. Contre la Covid-19, mais aussi contre les virus de l'hiver, il y a des gestes solidaires. Pensons aux malades qui ont perdu le goût. Bouffons leur part et finissons bien nos assiettes. Pour rien lâcher au virus. Alors faisons boire des vins naturels à ceux qui ont perdu l'odorat. Ils sentiront pas l'odeur du poney. Plus d'informations sur gg.fr. Ceci était un message de « À ta santé la France ».
Une autre personnalité a bien voulu prêter sa voix à la nouvelle campagne anti-Covid. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Alain Juppé.
Le virus de la Covid, je ne sais pas quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Et j'ai remarqué que je croise souvent des jeunes qui n'en ont rien à carrer parce qu'ils ne seront pas malades. Alors, si je suis jeune, je m'isole, je reste chez moi, je joue à la PlayStation ou je me tire sur la nouille devant Internet, mais je ne croise pas les vieux qui font leurs courses. Oui, si je suis jeune, en restant chez moi, je ne contamine pas les vieux. Ceci est un message du Conseil constitutionnel et des Montescaliers Stana.
Gérald Darmanin a demandé aux forces de l'ordre de se montrer particulièrement vigilantes face aux fêtes clandestines, rêves parties et autres soirées libertines qui fleurissent partout dans l'Hexagone. Et oui, nous étions la nuit dernière sur le
derrière,
terrain.
Derrière. C'est bien pour les fêtes libertines. Oui.
Pardon, excusez-moi. Nous étions donc la nuit dernière sur le terrain aux côtés de la plus célèbre brigade de gendarmerie de France.
Messieurs, l'heure est grave. Des malotrus ne respectent pas le couvre-feu et organisent des fêtes privées. Et pourquoi qu'on n'en ferait pas une de fête à la gendarmerie, mon adjudant? Mais parce qu'elles sont interdites, imbécile. La seule fête que vous puissiez organiser, c'est la fête à Neneu. Et d'abord, où est cet incapable de maréchal des logis Cruchot?
Je suis là, regardez, je suis là, je m'enlève ma perruque. Hop là, j'enlève ma perruque. Mais Louboutin, voilà, mon corset, c'est moi, mon adjoint. C'est moi, c'est Cruchot.
Enfin, Cruchot, vous voulez un blâme pour racolage? Mais pourquoi êtes-vous déguisé en travesti?
Mais je ne suis pas déguisé. Je suis pas déguisé en travesti, mais en libertine, comme la chanson de Minfa.
Vous allez comprendre.
Oui. Alors, je repère des appartements où il y a de la lumière passée minuit. Il en suit, je tape à la porte, je rentre. Tous les libertins sont attirés par moi comme un aimant.
Et là, crac, j'en ai attrapé. Regardez un homme en slip et crac, un deuxième et un troisième. Ah, mais c'est une catastrophe. Vous venez d'arrêter un député, les membres du Conseil constitutionnel.
Et le troisième, c'est...
Qui a interrompu la fête? Où sont mes lunettes? Où sont mes lunettes?
Mais il dansait en slip en pleine nuit, malgré le couvre-feu, mon adjoint, en slip! Slip ou pas slip, avec cet infait, avec cet impair, vous allez tous être nommés à la circulation sur les boulevards extérieurs, avec votre perruque et vos Louboutins, il va vous arriver des bricoles, Cruchot, des bricoles!
Y aura-t-il encore de la neige dans 80 ans? C'est la question légitime qu'on peut se poser après la publication d'un nouveau rapport de Météo France qui indique que le réchauffement climatique touche durement notre pays. Ainsi, les températures pourraient augmenter de près de 4 degrés.
Pas cette semaine,
mais... C'est vrai. Faisons le point avec l'immense vulgarisateur scientifique Hubert Reeves.
Vous savez, en tant qu'astrophysicien, spécialiste des mystères astro, je m'en veux vous dire que c'est pas bien marrant de vivre sur une planète chaude. Mm. Je vous donne un exemple à M. Calvé, qui aime bien, je le sais, les grillades.
Oui.
Eh bien, si on envoyait la côte de bœuf de M. Calvé en voyage interplanétaire sur Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, eh bien, il en resterait qu'un bout de charbon de cette pauvre grillade. Et d'après mes modélisations rigoureusement scientifiques, je peux vous dire qu'il en irait de même avec les merguez et les chipolatons.
Merci pour cette explication, oui. on avance, mais revenons plutôt sur Terre et au réchauffement climatique, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe qu'on produit du gaz à effet de serre, la planète se transforme en cocotte en fonte, comme celle de M. Calvé quand il fait son andouillette du dimanche.
Bon, Hubert, pourrait-on arrêter avec Yves Calvé et les métaphores gastronomiques?
Ça avait tort. En tant que scientifique vulgarisateur, je peux vous dire que ça explique beaucoup de choses. Chaque matin à 8h50, j'observe dans mon télescope géant un phénomène extraordinaire quand le satellite Léniac se met en orbite autour de l'astre Calvé. Il se met à chauffer, à entrer en combustion dès que le Cyril Léniac se met à produire non pas des gaz, rassurez-vous, mais des baborums, des crêpes Suzette et des crêpes anglaises.
Oui.
Ces glandes salivaires à notre Calvé sont de telle production que M. Courbet est obligé d'éponger la place dès qu'il commence son émission.
Quelle est la solution? J'en oublie. Bon, et quelle est la solution sur Terre pour éviter le réchauffement climatique?
J'en vois qu'une. Appelez Julien Courbet au 3210.
Et vous savez quoi? Dans un instant, Cyril Lignac est déjà avec nous. Il va nous donner une recette de bon bœuf thaï. Bien épicé.
Avec toi.
Ben oui, alors merci à toute l'équipe. Rendez-vous demain matin et d'ici là sur le site rtl.fr. Cyril prépare ses instruments de cuisine. Voilà. Bon, vous me l'avez bien détendu.
Il est formidable.
A tout de suite avec Cyril Lignac sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Cyril, on a passé un bon moment avec Laurent Gérard. Maintenant, on va passer un excellent moment avec vous. Les auditeurs vous posent leurs questions via notre site rtl.fr/participer. Et aujourd'hui, c'est André qui est strasbourgeois et qui voudrait faire de l'émincé de bavette à la taille. Je voudrais, nous dit-il, que ce soit bien épicé sans être trop relevé. Je vous laisse faire.
Alors, c'est un plat que j'adore parce que... c'est un plat instantané, comme je dis. On coupe de la viande, on met des condiments, on fait sauter à la poêle ou au petit wok, et ça nous donne quelque chose de hyper bon, hyper gourmand, très rapidement. Mm-hmm. Alors, la recette, on prend des aiguillettes donc de bavette, puisque la bavette, ça marche très bien, comme le dit André, mais on peut aussi utiliser du poulet.
Oui.
On peut aussi le faire avec des crevettes. On peut varier les plaisirs dans cette manière de cuisiner à la taille. Alors, on découpe les aiguillettes, on les mélange, on fait toujours une bonne marinade. Donc, sauce huître, hein, qu'on trouve dans les supermarchés. C'est une sauce asiatique, un peu épaisse, à base de concentré d'huître.
Ça partout.
Mais qui n'est pas très iodée, c'est assez paradoxal, qui a un goût plutôt caramel. Oui. On ajoute de la sauce soja, du miel. Moi, je prends toujours des citrons verts. Je presse des citrons verts et je l'européanise en mettant un petit peu d'huile d'olive pour faire cette marinade.
Sympa.
Ce qui va permettre de détendre les chairs de la viande, qui va permettre de laisser infuser ses saveurs. Et si on aime un petit peu piquant, on met de la sauce sriracha, qui est un piment.
C'est tellement bon.
Et ça, on y va tout doucement. Si on n'a pas de sriracha, plus communément, on peut trouver du tabasco.
Bien sûr.
Et là, on régule un petit peu la puissance de notre petit sauté. Ensuite, on prépare un beau wok ou une poêle, de l'huile d'olive. On ajoute de l'oignon et de l'ail que l'on fait cuire. Une fois que c'est bien caramélisé, on met à l'intérieur les morceaux de viande. On fait sauter assez rapidement. Ce qui est bon, c'est de la manger quand même saignante. Et ensuite, au dernier moment, moi j'y ajoute des germes de soja. Mmh. On peut ajouter des petits bâtonnets de carottes, un peu de concombre. On peut aussi ajouter du maïs ou les légumes d'ailleurs. Chou-fleur, c'est la saison, râpé cru, tout ce qu'on a envie de mettre à l'intérieur pour avoir vraiment un plat complet en fait. Alors on ajoute au dernier moment de la coriandre ou de la menthe, quelques petites cacahuètes ou des noix de pécan, et là on a un super plat complet.
Merveilleux, et vous savez quoi? Ça ferait un très bon plat pour l'anniversaire de Roudoudou qui travaille avec nous tous les matins. Voilà. Donc bon anniversaire à Roudoudou.
Bon anniversaire.
Merci Cyril Lignac, on met toutes les informations sur le site rtl.fr. Et puis j'annonce aussi à nos auditeurs que sur le même site, vous êtes cette semaine au menu du podcast de Christelle Rebière et Catherine Mangin. Ensuite, c'est son titre, et vous y racontez votre passion pour la cuisine depuis votre plus tendre enfance.
À demain.
Il est 9h. 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le rappel des titres de l'actualité avec Jérôme Florent.
À Aubonne, dans le Val d'Oise, le coup d'envoi aujourd'hui d'une vaste campagne de dépistage après la découverte de plusieurs cas de Covid dans un collège, dont deux positifs aux variants sud-africains. L'établissement est fermé jusqu'au 1er mars. Et puis à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, ce sont toutes les classes de première du lycée Jeanne d'Arc qui sont fermées après la découverte de quatre cas suspects. Les experts de l'OMS dépêchés en Chine tiendront ce mardi une première conférence de presse. Ils sont sur place pour enquêter sur l'origine de la pandémie. Expédition étroitement encadrée par les autorités chinoises. L'OMS a déjà prévenu qu'il faudrait s'armer de patience avant de trouver une éventuelle explication. En Birmanie, les manifestants ne désarment pas. Plus d'une semaine après le coup d'état militaire, de nouveaux rassemblements dans plusieurs grandes villes du pays. La police tente de disperser les foules en tirant des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Donald Trump, jugé en son absence au Sénat à Washington, second procès en destitution pour l'ancien président, poursuivi pour incitation à l'insurrection un mois après l'invasion du Capitole. Les musées rouvriront-ils aujourd'hui à Perpignan? C'est ce qu'a annoncé le maire RN de la ville, Louis Alliot, mais le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi la justice. Total plonge dans le rouge. Le groupe a perdu plus de 7 milliards de dollars l'an dernier à cause de la crise qui a pesé sur les cours du pétrole. L'année d'avant, Total avait enregistré un bénéfice de plus de 11 milliards. Froid et flocons, c'est le programme de la journée. La neige va traverser le pays d'ouest en est. En Bretagne, les transports scolaires sont suspendus. Le Nord et le Pas-de-Calais ont déclenché le plan grand froid.
Merci beaucoup.